Bonsoir. Bienvenue dans ce groupe de partage autour de l'unité, autour des enseignements qu'on appelle non-duels, de la spiritualité, de qui nous sommes, de notre nature profonde que nous cherchons à travers maintes et maintes expériences à recontacter pour vivre une vie heureuse, pour vivre dans plus d'amour, dans l'amour, on peut dire même d'une manière global. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à ce qu'on partage ensemble un petit moment de son, juste le temps que dure le son. Merci. Alors, nous sommes le lundi 16 avril et comme les températures ont un petit peu chuté, ben, on est devant un très beau feu de bois que vous entendez peut-être aussi, qui crépite. Voilà, donc bienvenue aux nombreux frères et sœurs qui nous suivent à distance, hein, qu'ils soient loin géographiquement ou qu'ils soient dans le confort de leur petit nid douillet qui peut être plus agréable ou plus pratique pour eux d'habiter pour être avec nous, mais tout ça n'a aucune importance puisque en effet tous ces frères et sœurs sont inclus et nous partageons le même groupe ensemble. Voilà, je vais en quelques phrases introduire le groupe et ensuite nous partagerons ce qu'il nous vient de partager. Et quoi que ce soit qui est évoqué, nous pourrons, si nécessaire, l'éclairer à la lumière de la spiritualité, la non-dualité, qui dit une seule chose, nous sommes un. Nous sommes un et aussi Dieu est. Alors Dieu, c'est pas un concept religieux dans ce cas-là, sauf si on dit que religieux, c'est ce qui est relié, mais c'est pas religieux au sens classique du terme. Au sens des religions qui établissent un certain nombre de dogmes avec Dieu et autour de Dieu. Dieu est dans un concept beaucoup plus universel, hein, lorsque nous employons ce mot. Dieu est toute l'existence, hein, pour la non-dualité. Dieu est tout ce qui est. On peut facilement remplacer le mot Dieu s'il est trop connoté par d'autres, l'univers, la source, l'amour, la totalité de l'existence, la nature, notre vraie nature, etc. Hein. Chacun peut avoir sa propre définition, mais c'est un mot qui englobe tout. Hein. C'est ça la vraie nature de Dieu dans la spiritualité, c'est il n'y a rien en dehors de Dieu. Et donc forcément, nous sommes dedans avec. Nous sommes un avec Dieu. Alors, partant de cette phrase simple, Dieu est tout ce qui est, on peut aussi dire facilement que c'est impossible pour Dieu de s'opposer à quoi que ce soit puisqu'il est tout. Il s'opposerait à lui-même. Et forcément, puisqu'il est tout, Dieu accueille tout. Dieu dit d'accord à tout, à toutes nos expériences, puisque Dieu ne s'oppose à rien par nature. C'est la nature de Dieu que de tout accueillir. Donc pour certains, ça pose question, hein, comment Dieu peut dire ok ou d'accord à des choses violentes ou cruelles. Voilà, il y a des façons d'embrasser cette question à la lumière de la non-dualité et d'y apporter certaines réponses. Alors, cette soirée n'a pas d'animateur. Moi, j'organise au niveau pratique. J'introduis un petit peu quelques concepts hein, pour démarrer le groupe. Quelques concepts qui sont théoriques, mais qui peuvent inclure aussi des éléments d'expérience. Et ensuite, chacun peut intervenir ou pas en fonction de sa guidance. La guidance, c'est l'inspiration. La guidance, c'est l'intuition. La guidance, c'est, tiens, tout d'un coup, je sens que ce que tu as dit évoque pour moi une chose que j'ai envie de dire maintenant. Une idée qui vient sans que je sache forcément d'où elle vient. Et la guidance, c'est une forme de canalisation que nous autorisons à s'exprimer à travers nous. Et voilà, ça s'appelle le channeling aussi. C'est beaucoup plus commun que nous pouvons le penser. C'est beaucoup plus ordinaire, hein, sachant que n'importe qui est inspiré à dessiner, à peindre, à chanter, à écrire un poème ou à simplement dire des choses connectées au cœur, en fait, est en train de canaliser quelque chose de bien plus vaste que l'expérience simplement humaine. C'est de ça dont il est question ce soir. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent explorer la vastitude, au-delà du sentiment d'être étriqué, au-delà du sentiment d'être limité dans un corps, au-delà du sentiment de finitude, que les choses commencent et se terminent dans notre monde, y compris ce qu'on appelle la vie humaine. Faire reculer un petit peu ces limites en termes de j'appréhende le vivant peut être aussi une des choses qu'on fait, qu'on évoque et qu'on partage ce soir. Donc c'est un groupe de partage, hein, c'est vraiment du partage de ce que nous sommes amenés à dire de notre vie ou ce que nous sommes amenés à raisonner dans l'instant, hein. Alors parce que c'est un groupe de partage qui n'est pas animé, je vais conférer la direction de la soirée à l'esprit 1, hein, l'esprit dans lequel nous sommes tous, quand on dit nous sommes un, l'esprit qui est juste, qui est vaste, et qui est dans la sagesse, qui est au-delà de notre personnalité humaine, mais qui voit aussi notre monde humain, qui peut aussi nous aider dans ce monde à dépasser certaines limites. Et je vais conférer cette direction au moyen de 5 phrases que je trouve absolument superbes, de plus en plus superbes, qui apparaissent à la page 30 du gros livre bleu, 2300 pages, qu'on appelle un cours en miracle, traduit, si je crois, dans une quarantaine de langues dans le monde. C'est ça? Moins. Combien? 25 langues, c'est déjà beaucoup. Et qui est appelé à avoir une propagation de plus en plus grande. Au fur et à mesure que les groupes comme le nôtre naissent comme des champignons. Puisque maintenant, il y a au moins 5 groupes sur la région parisienne, voire plus. Et bien d'autres en France. Alors, ces 5 phrases disent ceci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Et donc, j'ai pas de programme, et il n'y a pas de programme ce soir. Chaque chose se passe dans le maintenant, dans l'instant présent. Et nous pouvons être guidés à parler ou à ne pas parler. À rester en silence pendant un moment, à partager une présence, simplement. Ou à parler pendant une demi-heure d'affilée. Tout ça, nous laissons faire, puisque, d'une certaine manière, nous sommes des canaux pour plus vastes que nous, et nous laissons une forme de sagesse nous enseigner à nous-mêmes des choses que nous savons, mais que momentanément, dans l'expérience humaine, nous voilons de manière à vivre une expérience de séparation qui est souhaitée, hein, que nous avons souhaitée en tant qu'être divin, infini, puissant. Nous avons émis une question, et cette question, comme un cours en miracle l'appelle, c'est une question un petit peu absurde, que le cours en miracle l'appelle l'idée folle. Le Fils de Dieu a eu une idée folle. Et cette question, c'est que seraient les choses si nous n'étions pas divins? Ou que seraient les choses si elles n'étaient pas ce qu'elles sont? Ce qui revient au même, puisqu'il n'y a que Dieu, il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a pas une multitude de choses, il n'y a que Dieu. Mais nous avons souhaité morceler cette présence de Dieu, cette unité. Et comme c'est impossible dans cette réalité de Dieu de faire qu'autre chose que Dieu puisse exister, alors nous l'avons rêvé, nous l'avons imaginé. Et c'est ce qu'on appelle dans Un cours en miracle et dans d'autres ouvrages non duels, l'illusion. Même si cette illusion, pour beaucoup, elle a des aspects très prégnants, flagrants de réalité. C'est-à-dire que nous avons agencé cette illusion de manière parfaite. Pourquoi ? Parce que cette pensée, et si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont, a été honorée par Dieu. Puisque tout ce que nous pensons en tant qu'être divin a un effet immédiat, hein, puisque nous avons un pouvoir infini en tant qu'être divin. Bien sûr, nous ne nous rappelons pas de ce pouvoir en tant qu'être humain vivant une expérience d'incarnation terrestre. Et ça fait partie du jeu. Et quand je dis le jeu, c'est vraiment un jeu, hein, de dire, tiens, on va jouer à cette grande blague de dire, et si on était limité, et si on avait moins de pouvoir que Dieu, et si notre expérience avait un début et avait une fin, notre vie également, que se passerait-il? Alors, pour que ce jeu puisse être réellement honoré et joué, il a été nécessaire que nous voilions la conscience divine, que nous oublions que nous sommes divins, que nous sommes Dieu, en fait, que nous sommes infinis, éternels, illimités, omniprésents, omnipotents. Donc nous avons ce qu'on appelle dans les ouvrages de non-dualité, poser un voile d'oubli, un voile de séparation sur notre conscience divine. C'est comme si nous avions assombri momentanément notre lumière en nous endormant un peu. Tout ça, c'est des images, puisque nous ne dormons pas réellement. Mais nous imaginons des choses qui ne sont pas réelles. Et dans la non-dualité, dans un cours en miracle, nous distinguons l'illusion qui est notre perception dans ce monde humain, terrestre, univers inclus, hein, les étoiles, les extraterrestres, tout, et la perception que le cours en miracle appelle vrai, la réalité avec un grand R, qui est Dieu et rien d'autre, qui est pure félicité, pur amour, dans lequel l'amour n'a pas d'opposé, contrairement à ce que nous pouvons vivre sur Terre, dans lequel il n'y a que l'amour et rien d'autre, ou des manifestations sans opposé, comme la paix. Voilà, il y a beaucoup de... Il y a deux niveaux de perception en vérité dans lequel, dans ces soirées, nous pouvons naviguer, c'est-à-dire évoquer l'un, évoquer l'autre. Le niveau de l'ego ou de la perception de la séparation, dans lequel je peux sentir la souffrance, je peux aller chez le dentiste et avoir mal aux dents, je peux sentir qu'il y a du temps, je peux sentir qu'il y a de l'espace, je peux sentir que j'ai un corps, il y a de la matière, c'est fini, c'est limité, je peux être en colère, je peux aussi aimer, mais je peux aussi aimer avec des conditions. Je t'aime si, hein, si tu es gentil avec moi, si tu fais ce que je dis, si tu me trahis pas, si tu ne m'abandonnes pas, si tu ne me rejettes pas, mais si tu le fais, ben, je vais plus t'aimer. Et donc c'est l'amour qui a un opposé, qui peut être la colère, la haine. Et dans le monde de la perception vraie, ou qu'on appelle aussi la perception juste, il y a un amour qui n'accepte aucun opposé, qui est l'amour universel. C'est pour ça que Dieu est pur accueil. Pur accueil, ça veut dire aussi pur amour. Ça veut dire que toutes les expériences que nous voulons expérimenter dans ce monde sont accueillies par un oui de Dieu. C'est juste une manière de parler. C'est aussi la façon de dire que Dieu ne s'oppose pas à ce que nous voulons expérimenter en tant que rêveur qui rêve d'un monde fini, d'un monde limité. Voilà, donc à quoi sert ce monde? D'une certaine manière, même s'il n'existe pas, il a une utilité. Hein, il n'a pas de réalité propre, mais il a un sens. C'est important de rappeler que pour certaines personnes, de dire que le monde n'existe pas, ça peut être très violent, et nous accueillons que oui, ça peut être vécu comme ça, dans une perception qui s'identifie au corps, qui s'identifie au monde. S'il n'y a plus de corps, s'il n'y a plus de monde, si ça n'existe pas réellement, alors il peut y avoir une panique, un sentiment de vide, un sentiment de non-existence, de dissolution. Et c'est pour ça que des ouvrages tels Un cours en miracle comprennent des leçons qui sont des exercices pratiques et qui permettent à l'esprit de juste, l'esprit divin, le Saint-Esprit, comme l'appelle ce livre, la partie juste de nous, de nous accompagner pas à pas d'un monde à l'autre, hein, pour se rappeler que nous n'avons jamais quitté la réalité. Nous nous sommes simplement un peu endormis, et donc ce souvenir est en nous, quoi que nous fassions dans ce monde terrestre, ce souvenir de l'amour, ce souvenir de Dieu ne peut pas s'éteindre. C'est comme une étincelle qui est en nous à jamais et qui de temps en temps se ravive et nous prend la forme d'un appel à s'éveiller, d'un appel à ressentir des choses vraies, arrêter de tourner en rond dans des choses qui sont difficiles, douloureuses, ou qui sont j'ai raison et tu as tort, ou des choses conflictuelles, et trouver de plus en plus d'accueil et d'amour dans notre vie terrestre pour oublier la perception d'un monde illusoire et accéder à une perception dans laquelle il n'y a que l'amour, qu'il n'y a rien d'autre, et dans laquelle tout est pure félicité. Alors pourquoi nous en parlons, même si nous sommes dans un corps et nous ne vivons pas ça maintenant, ou rarement? Parce qu'en nous, il y a cet appel qui est engrammé, et qui de temps en temps, dans la vie, un beau jour se manifeste, parce qu'il y en a assez de certaines choses. Il y en a assez des couples qui marchent pas, il y en a assez des relations amoureuses qui se terminent dans la violence, ou dans le rejet, ou dans l'incompréhension, dans l'absence de communication. Bon, je ne m'étends pas parce que je pense que ce sujet-là, vous savez certainement de quoi je parle. Mais dans ces groupes, nous évoquons aussi la partie de nous lumineuse, que nous appelons à grandir, que nous reconnaissons et à laquelle nous nous identifions en priorité lorsque nous parlons de ou lorsque nous interprétons les expériences vécues ici dans ce monde. Donc je disais, à quoi sert ce monde? Il est illusoire, mais nous pouvons nous imaginer que nous sommes des poissons qui baignaient dans un océan d'amour, et ces poissons ont voulu s'extraire de l'eau, s'extraire de l'amour, pour vérifier à quel point c'est joyeux d'y retourner, à quel point c'est joyeux de revenir dans l'océan. C'est un peu ça le but de ce monde. Ce monde sert à faire des expériences qui nous ramènent à l'amour. Alors parfois, on va faire l'expérience opposée, mais même l'expérience opposée a un sens pour revenir dans le monde où seul l'amour existe, seul Dieu existe. parfois je vais devoir faire un certain nombre d'expériences jusqu'à constater que ces expériences ne m'aident pas à être plus heureux et puis choisir autre chose. Et la mille et unième expérience donnera le sens aux mille premières, hein, dans ce cas-là. Voilà, et puis nous avons des rappels dans notre monde, des rappels que nous pouvons choisir d'interpréter une situation avec l'ego. L'ego, c'est la partie de nous qui a la certitude que les choses sont séparées, que il y a des êtres humains indépendants les uns des autres, qui sont pas connectés du tout, qui sont même parfois adversaires, opposants, qui se battent ou qui expriment des sentiments qu'on appelle négatifs ou autres. Alors cet ego, il est nécessaire pour être incarné, c'est-à-dire si je crois que j'ai un corps, si je vois que j'ai un corps, si je touche que j'ai un corps, si je sens que le temps s'écoule, si je sens que dans l'espace les choses sont pas une mais séparées, alors c'est l'ego qui veut ça. C'est l'ego qui est nécessaire, c'est un manteau que j'ai endossé pour voir les choses séparément. Donc l'ego n'est ni bien ni mal, c'est un constituant indispensable pour jouer la grande blague cosmique de la séparation. Alors à quoi il sert? S'il n'y avait pas d'ego, ben nous saurions instantanément que la blague en est une et nous arrêterions la seconde d'après, la microseconde d'après, l'instant éternel d'après, le jeu, parce que le jeu n'aurait aucun sens puisque nous verrions les règles du jeu. Et là nous avons masqué les règles du jeu. La règle du jeu, c'est Dieu est, c'est tout. C'est une règle qui tient en deux mots et qui se décline en 1300 pages dans un cours en miracle et en des milliers d'autres ouvrages. Mais elle dit simplement cette chose. Il n'y a que l'unité et rien d'autre. Il n'y a que l'amour et rien d'autre. Donc dans ce monde, l'ego vient essayer de nous convaincre du contraire à travers des situations dans lesquelles nous nous sentons attaqués, nous nous sentons critiqués, et pour que nous puissions nous-mêmes faire l'expérience de qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai une situation qui m'offre la possibilité de choisir la réactivité et l'agression et le jugement, et bien d'autres choses, la colère, etc., la haine, la rage, et ou de choisir ou de prendre faire un autre choix qui est celui de l'unité, qui dit quoi que ce frère, cette sœur dise, je le considère comme Dieu le considère. Je le vois avec les yeux de Dieu. Je le vois en tant que pure lumière. Et ce processus s'appelle le pardon véritable dans un cours en miracle. C'est un cours sur le pardon essentiellement. Le pardon, c'est juste changer de vision sur ce que je crois que l'autre me fait et arrêter de le considérer comme quelqu'un qui s'oppose à moi. Mais quoi qu'il dise ou fasse, avoir une vision d'amour avec lui. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu une très belle expérience pour moi de pardon cette semaine. C'était, je pense, même hier. Et je reprends volontiers la phrase de Gary Renard qu'il avait dit en direct lorsqu'il était dans une réunion il y a quelques années. Et Gary Renard disait, avant, quand je devais pardonner, ça me prenait 30 ans, et aujourd'hui 30 secondes. Parce que le pardon, c'est un processus d'apprentissage, et aussi de désapprentissage. Hein. Je désapprends que celui qui me dit, ce que tu fais, c'est absolument nul, hein, tu devrais arrêter tout de suite, et tu devrais faire ce que je fais moi, parce que moi, c'est beaucoup mieux ce que je fais. Je dis n'importe quoi, hein, je dis ça. Cette personne qui apparemment m'attaque, apparemment m'agresse, apparemment me juge négativement, me procure une occasion de choisir. De choisir quoi? L'amour. L'amour en toute situation. Celle-là, et dans cette situation, c'est plus difficile en effet de pardonner, c'est-à-dire de voir ce qui est juste, nous sommes un, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est vrai. Bien sûr, la situation peut me dire autre chose, hein, ça c'est pas nié du tout. Mais malgré que la situation semble dire autre chose, je peux avoir des yeux, une vision qui voit la vérité, qui voit la lumière de cette expérience et qui voit que c'est quand même un message d'amour. Et donc, tout le processus sur Terre vise à ce que, en toutes circonstances, nous puissions entendre le message d'amour, que ce soit un message d'amour humain, ou que ce soit un message de critique ou de jugement, ou même de meurtre ou d'agression, ou d'attaque, quelle que soit la manifestation. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai reçu un email. Je bénis ce frère, bien sûr. Je ne l'ai pas fait immédiatement. Donc, comme Gary Renard, ça m'a pris beaucoup moins de temps qu'avant. Mais je me suis rappelé assez vite qui il était. Et un frère qui me dit, écoute, dans tes stages, moi, c'est super le contenu de tes stages, mais à la fin, quand tu demandes d'aider à nettoyer les toilettes et tout, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Quand tu nous on paye, il n'y a pas de raison qu'en plus on nettoie tout ça. Enfin, ça s'est décliné en plusieurs phrases. Alors, dans ces cas-là, moi, ce que je ressens dans un premier temps, c'est ce que j'appelle un titillement. C'est plus une réactivité forte, hein, c'est une réactivité faible, mais c'est quand même une réactivité. Mon ego est un petit peu dérangé, momentanément. Pourquoi? Parce que l'ego, ma personnalité, celle qui croit que ce frère et moi, on est des adversaires, on est séparés, eh bien, il croit que je peux subir une attaque, il croit que je peux être diminué dans ma valeur, il croit que je peux être déconnecté de l'amour, ne pas être apprécié, voilà. Donc l'ego, cet ego-là, parle en premier. Il parle en premier, ça fait partie des règles du jeu, que cet ego parle en premier et avec une voix suffisamment forte pour masquer la voix de l'âme ou la voix de l'esprit juste ou la voix d'amour que nous portons également en nous, mais qui est subtile. Voilà. J'ai peut-être été dérangé pendant une trentaine de secondes, je pense. Il y a eu en moi un sentiment d'inconfort, il y a eu en moi un sentiment de gêne, il y a eu un sentiment de culpabilité, et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qui n'a pas été correct, hein? Et tout de suite après, j'ai senti merci. Merci pour ce frère. Et je me suis dit, pour un frère qui a le courage de me dire ça, il y en a 10, 15, 20, 100 qui se taisent. Qui le pense aussi. Donc déjà, merci d'être l'écho de cela. Hein, l'écho qui dit tout simplement sa vérité. C'est peut-être pas ce que je perçois, c'est peut-être pas ce que je ressens, mais c'est sa vérité. Et ce que je peux dire, c'est que s'il le ressent, je peux rien dire d'autre. C'est vrai pour lui. Si c'est vrai pour lui, je ne m'y oppose pas. Donc déjà, il y a déjà un retour. Pourquoi je m'opposerais à ce qu'il ressent? Il le ressent. Comme moi, je ressens le titillement, je ne m'oppose pas au fait que je me sens dérangé. Je me sens jugé, je me sens dévalorisé. Et tout ça, c'est momentané. Hein, et tout de suite, en moi, il y a la phrase qui vient. Cher frère, je n'oublie pas ta lumière. Je n'oublie pas qui tu es. Je n'oublie pas que tu me dis tout ce que tu me dis. Tu m'écris ce mail, puisque c'était un mail, pour vérifier si je vais choisir l'attaque en réponse à tes provocations supposées. Bien sûr, tout ça c'est du semblant. Hein. Ou si je vais choisir l'amour, si je vais choisir de rester dans ma lumière pour me rappeler de ta lumière, de notre lumière, puisque c'est partagé. Voilà, et 30 secondes après, je le voyais déjà dans la lumière, j'y avais en moi un grand merci. Merci de me rappeler que je n'oublie pas ma propre lumière, que cette propre lumière ne peut pas être ternie par quoi que ce soit, à part mes croyances de culpabilité, mes propres croyances. Donc, si je donne de la puissance, alors je voile ma lumière et mes croyances apparaissent au grand jour. Et si je me rappelle de qui je suis en me rappelant de qui tu es, puisque c'est la même chose, finalement, alors je mets de la lumière sur l'expérience et je peux ne plus être affecté par l'expérience. C'est ça le pardon. Le vrai pardon, c'est « Merci, cher frère, de m'avoir rappelé qui je suis et de m'avoir rappelé de ne pas oublier qui tu es, quoi que tu dises et quoi que tu fasses, surtout dans ces moments » où il semblerait qu'il y ait un dérangement entre nous, qu'il y ait une critique, hein, et apparemment tu ressens aussi un petit dérangement, puisque tu crois nécessaire d'exprimer ça, et puis ce dérangement peut être véhiculé en moi, peut s'installer en moi, peut générer quelque chose de très lourd en moi, une dépression, une colère, une rage, l'envie de tuer, ou peut générer quelque chose de moyen, ou peut générer quelque chose de léger, ou peut générer quelque chose de très léger, ou peut ne rien générer du tout, si je me rappelle instantanément de qui est ce frère. Donc j'ai une gratitude infinie, après avoir été dérangé, pour l'expérience du dérangement, qui a été provoqué par ce petit mail avec lequel j'aurais pu sombrer dans des choses il y a une dizaine d'années très difficiles où j'aurais plongé dans la culpabilité, où j'aurais plongé dans faut que j'arrête ce que je fais parce que c'est pas parfait ou c'est pas apprécié. Où j'aurais plongé dans l'autre me dit ma valeur et donc je crois que ma valeur réside dans l'appréciation, la reconnaissance, et s'il n'y a pas de reconnaissance j'ai pas de valeur, un tas de choses fausses, un tas de choses que l'ego prêche dans sa paroisse. Donc que je reconnaisse les choses pour ce qu'elles sont et que je reconnaisse le titillement pour ce qu'il est, une tentative de croire à autre chose que l'unité, mais quand je vois le titillement, je ne suis pas le titillement. Et ça, c'est mon salut pour moi, mon propre salut. Le salut, c'est retrouver la lumière dans le noir, dans l'apparente obscurité. Et j'ai tiré une leçon tout à l'heure, 194. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Donc, quoi qu'il se passe maintenant, ce qui va se passer après, dès que j'applique le pardon, j'ai le pouvoir de sortir de ce présent un petit peu distordu que je fabrique et d'avoir un futur qui est déjà dans les mains de Dieu et de reconnaître qu'il est dans les mains de Dieu comme moi je suis dans la main de Dieu. Et que tout ça est un jeu admirablement joué pour que je considère le temps qu'il me faut pour revenir à l'amour. Alors ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre une vie, ça peut prendre un millier de vies pour pardonner, mais le futur est sûr et certain. Je reviendrai dans l'amour parce que la prémisse, c'est je n'ai jamais quitté l'amour. J'ai juste fermé les yeux, dormi un petit peu, rêvé de la terre, du temps, du monde, du corps, de l'espace, fabriquer un corps pour admirablement jouer cette comédie qui parfois tourne à la tragédie, et le futur qui est amour pur dans ce à quoi je suis appelé à manifester tôt ou tard lorsque je vais ouvrir les yeux et voir ce qui est en tant que la totalité de ce qui est. Eh bien, il est entre les mains de Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu. Voilà, je me réjouis de voir que le temps que je mets à voir les choses en vérité, ça me nuise de plus en plus. Et que les prétextes qui me sont donnés pour choisir sont des occasions bénies de considérer qu'il n'y a que l'amour, même si pendant un petit moment je crois à autre chose. Et donc, entraînons-nous, hein, considérons que tout ce qui nous arrive de désagréable dans la vie, ce sont des entraînements pour notre esprit à penser de manière juste, à percevoir de manière juste. Et la seule manière juste de penser, c'est d'aimer. Et si c'est pas facile, eh ben on s'entraîne. Hein, on s'entraîne. Il y a de multiples manières de s'entraîner. Une des manières, c'est d'être ici dans ce groupe. Une autre manière, c'est d'écouter l'enregistrement. Et puis il y a un millier d'autres manières, si ce n'est des millions, qui mènent tous à Rome. Hein, on dit tous les chemins mènent à Rome. Et Rome, c'est notre cœur énergétique, celui qui ne sait qu'aimer et qui ne sait qu'être en expansion permanente. L'expansion, c'est toujours plus d'amour. Hein, je suis dans quelque chose qui rayonne l'amour. Je suis l'extension de Dieu lui-même. C'est-à-dire toujours plus, toujours plus. Voilà. Je vais terminer mon intervention avec une transition. Merci l'esprit, admirable. Et quand je dis admirable, je m'adresse pas à mon ego. Reste tranquille. Au pied, au pied. qui dit simplement la phrase que j'avais choisie la semaine dernière, la leçon 238, « Sur ma décision repose tout le salut. » Voilà, alors ma décision de considérer ce frère comme un frère, et non pas comme un attaquant, elle est mon salut, hein, tout le salut. Et comme nous sommes un, mon salut c'est le salut de tous. Hein. Si je vois quelqu'un qui est éveillé, je vois que tout le monde est éveillé, puisque... dans la vision une, il n'y a pas 7 milliards d'humains. Il y a une seule vie, il n'y a que Dieu. Sur ces mots qui contiennent toute la vérité, je cède la parole. Voilà, bienvenue à tous vos partages, qu'ils soient brefs ou longs, et qu'ils soient en silence ou en parole. J'ai parlé.
Je voudrais faire un témoignage inverse. Enfin, inverse. C'est-à-dire que ce week-end, j'ai été confrontée à quelque chose en soi pas très important, d'une sorte de place, mais qui était en soi pas... pas très très importante, et je suis rentrée dans dans quelque chose d'assez violent, bon, qui n'était pas dramatique non plus, mais qui était quand même assez violent, donc qui n'était pas du tout, qui était purement dans le niveau de l'ego et pas du tout considéré. Voilà. Et en fait, en même temps, ça me fait marrer, mais. C'est-à-dire que ça fait plusieurs fois que je témoigne ici, mais je suis vraiment, pour l'instant, je me rends compte que je vais à ces groupes-là parce que j'ai besoin de me faire des piqûres de rappel c'est comme si j'étais retombée, que j'avais été à un moment donné dans l'unité tellement fort que je suis retombée et, je suis vraiment de... Du coup, je suis tombée dans le monde là et je suis incapable de d'en faire quoi que ce soit. Enfin, je suis dans l'ego. C'est impressionnant comme jamais je l'étais en fait. Et ce que je me disais quand je t'écoutais, c'est que je crois que comme j'ai jamais vraiment été et que je pense, alors ça va rentrer dans les termes, mais je pense quand même que c'est assez juste. C'est-à-dire que j'ai tellement été à un moment donné dans cette unité-là, et je me suis tellement fait bouffer, mon ego, hein, parce qu'il y a un endroit de moi qui effectivement s'est jamais fait abuser, jamais fait bouffer, etc. Mais bon, l'ego, il existe quand même. On est quand même avec un corps et compagnie. Donc, il s'est tellement fait abuser, tellement fait violenter, tellement fait agresser que là, il prend sa revanche. Et voilà. Alors, on pourrait me dire qu'est-ce que je fais ici, parce que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ici, Stéphane? Laisse tomber, va dans un match de boxe ou je sais pas, fais autre chose, parce que t'as rien à faire ici. Parce qu'en fait, je me rends compte à quel point je suis loin. Enfin, je suis le contraire. Je fais le contraire de tous les textes que je lis, de tout ce vers quoi j'ai envie d'aller. En ce moment, je fais le contraire. Alors que c'est voilà. C'est... Enfin, vraiment, je constate à quel point c'est vraiment. J'avais été haut, puis boum, tout d'un coup, j'étais redescendue par terre. Et par terre, je me débat, je regarde les autres êtres humains et je les vois séparés et je comprends pas ce qu'ils font. Je comprends pas ce que je fais non plus. Je comprends pas leur vie. Je comprends pas la mienne. Enfin, c'est assez étrange à vivre. Hein. C'est pas très agréable. Enfin, ça va me passer. Mais voilà, je comprends pas. En fait, le... Ouais, je crois que je suis redescendue. Alors, je vais peut-être remonter à un moment donné. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là d'être tombée, quoi. Comme si mon âme, elle était. Ça me fait. C'est ouais, c'est dur, quoi. C'est vraiment comme la douleur, ce qu'on peut lire dans les textes, et un peu la douleur cosmique, quoi. J'étais dans le cosmos, et puis mon âme, elle est descendue, et puis elle est tombée, et puis comme si j'avais vécu en fait une deuxième naissance, quoi, un peu. Et que là, cette deuxième naissance, bah là, elle est assez douloureuse, parce que vraiment, je regarde l'être humain, je regarde sa vie, et je regarde que ça. Je regarde que le côté, pour l'instant, que ce côté-là. Alors, même si j'ai des textes, même si j'ai des livres, même si je peux avoir accès à autre chose, sur le fond, dans ma vie quotidienne avec les autres, pour l'instant, je vois plus que c'est des âmes, je vois plus qu'ils ont divin en eux, que je les regarde, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font, ils ont deux jambes, enfin, non, mais c'est vraiment, je vis vraiment comme un truc particulier, quoi. Je vois l'être humain, je vois que la scène, en fait. Et c'est hyper désagréable, quoi. J'espère que je vais me sortir de ce truc-là, parce que là, puis en plus, je sens bien que l'autre partie de moi inspire autre chose, mais l'autre partie, pour l'instant, alors, elle est... elle crie, mais il y a l'autre qui prend l'autre partie, puis qui fait tu vas pas y... Hors de question que tu sortes. Je t'ai bien enfermée. Et puis moi, je vais maîtriser le truc. Je vais violenter tout le monde. Je vais faire ma loi. Et puis voilà, quoi. Bon, ça me fait du bien de le dire. Parce que je capte un peu le truc. Donc, ça me fait du bien, quoi. Voilà, merci.
Merci Estelle. Effectivement, le cours en miracle nous dit bien qu'on ne peut pas voir deux mondes. On voit soit l'un, soit l'autre. Nous sommes 7 milliards ici à avoir choisi un monde de séparation pour faire une expérience. Tout à l'heure, Avi a parlé de petite idée folle. Et ça paraît bizarre au début parce que le terme anglais, c'est tiny mad idea. Une minuscule idée absurde, insensée. Et qu'est-ce qui est absurde? C'est simplement le fait que c'est impossible. On s'amuse à imaginer l'impossible. Donc évidemment, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on dit que c'est une idée folle. Mais en même temps, la moindre pensée, on est tellement divin infini que cette pensée, elle est accueillie. Et c'est cette pensée-là qui crée l'univers entier qu'on voit. Ou qu'on pense voir. Parce que toute la question, c'est comment on le voit. Or, on a choisi une expérience de séparation. Et là, Estelle vient de nous décrire, justement, une sorte de réveil qui passe par ce vide absurde où on ne sait plus où on en est. Parce qu'on ne peut pas voir les deux mondes. Donc, elle dit, voilà, j'ai senti un appel, j'ai vu à des moments des sensations de présence, d'unité de toute chose, d'amour, de lumière.
Et puis voilà que je me retrouve devant des corps, je vois des êtres séparés avec des besoins, des manques, des colères, etc., un tas de choses. Et j'observe ça et je ne sais plus où j'en suis. Effectivement, elle est en train de décrire le ciel et la terre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le ciel, c'est la totalité de tout, tout est un, tout est merveilleux, tout est divin, tout est lumière, tout est amour, paix, joie. Et puis, le monde de la séparation, où on désespérément, on tente de trouver un peu de bonheur dans quelque chose qui ne tient pas la route, qui n'a pas de sens. Mais comme on a choisi cette expérience pour essayer de donner un sens, eh bien, quelque part, depuis des millénaires, on lutte, on fabrique, on imagine toujours davantage de moyens pour essayer de s'en sortir à ce niveau-là. C'est pour ça que le courant miracle nous dit d'ailleurs, vous ne cessez pour faire le ciel d'utiliser des moyens qui font l'enfer. Et donc, tout le monde crée l'enfer ici puisqu'on a voulu. Alors, on n'a pas voulu évidemment créer l'enfer, c'est-à-dire être malheureux. Mais on a voulu s'amuser à un jeu qui conduit forcément en enfer, qui est absurde et qui ne marche pas. Mais on a voulu le faire et on est 7 milliards ici à avoir voulu ça. Ce qui fait que on peut se dire, mais on est foutu, puisque on joue à un jeu absurde, comme si on se précipite dans le mur, on va tous être éternellement dans ce jeu infernal d'illusions où on est malheureux finalement. Parce qu'effectivement, on ne peut pas arranger ce jeu-là. On essaye de le faire, ça ne marche jamais. C'est infernal. Et donc, elle vient nous décrire ce processus qu'elle est en train de vivre d'une manière plus consciente en ce moment, mais que nous vivons tous, ou du moins une certaine partie d'entre nous, ceux qui se réveillent un petit peu. La plupart dorment encore, donc quelque part, ils continuent à croire à la possession matérielle. On annonce qu'un petit bébé est né, il fait 3 kg 600. C'est un petit garçon, c'est une petite fille, il s'appelle Jean-Pierre, Brigitte, Luc, etc. Et puis il va avoir des besoins, des devoirs, il a une carte d'identité. Il va faire ceci et cela, on va lui apprendre à se protéger, donc à attaquer, à défendre. Et on lui apprend la dualité, on lui apprend la séparation infiniment. Et ça, c'est le jeu. Ce jeu est absurde, totalement absurde. Et pourquoi est-ce qu'il y a un réveil? Eh bien, il y a un réveil à cause de qui nous sommes. Parce que si nous n'étions pas qui nous sommes, il n'y aurait pas de jeu, il n'y aurait rien. Et donc, que l'on veuille ou non, on est dans un processus qui est initié par nous. Mais nous, avec un N majuscule, par l'esprit que nous sommes, par la lumière que nous sommes, par le divin que nous sommes. Et nous sommes rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Dieu est tout ce qui est, c'est-à-dire la vie, le vivant, ce qui existe, est tout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes en train d'écouter cet enregistrement, dans votre conditionnement, là, devant votre ordinateur, probablement, chez vous, et vous avez un conditionnement, vous êtes identifié apparemment à un corps, à homme, femme, avec tel âge, telle relation, etc. Tout ça, c'est ce qu'on a appelé la pièce de théâtre, que nous jouons tous ensemble. Qui joue cette pièce de théâtre? C'est la question. Eh bien, il n'y a qu'un seul joueur. Le courant miracle l'appelle le Christ. Jésus l'appelait le Christ. C'est-à-dire, c'est, disons, la manifestation de l'éternel, de ce qui est, de ce qui est à tout jamais, de ce qui est, de ce qui existe, de ce qui est réel et non menacé, dans une pièce de théâtre où tout semble menacé. Et donc, quand on voit le petit garçon, la petite fille qui naît, on dit il fait 3 kg 600, etc., on s'amuse à ce jeu d'identification à un corps particulier. C'est de la séparation. C'est totalement, ça n'a pas de réalité. Mais on a tout fait pour que ça ait une réalité. Donc, Estelle, elle nous a décrit tout à l'heure, magnifiquement, ce que, quelque part, nous vivons tous, ou nous allons vivre, ou nous avons déjà vécu ça, et nous le revivons. C'est-à-dire, un saut quantique entre deux mondes totalement incompatibles. Le monde de la réalité, le monde de l'amour, que nous connaissons bien, parce que c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes un, nous sommes amour et rien d'autre. Et puis ce monde qu'on s'amuse à imaginer, le monde de la séparation, tiens, et si nous n'étions pas qui nous sommes? nous sommes tellement divins à l'infini, puisqu'il n'y a que le divin, c'est que cette pensée-là, elle est immédiatement acceptée, accueillie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ça, parce qu'il n'y a qu'un esprit. Et que l'esprit n'est pas divisé contre lui-même, il ne peut pas. C'est ce qu'on appelle la loi divine, la loi de ce qui est éternel. C'est justement ça qui, justement, on pourrait dire qui est la preuve ultime de qui nous sommes vraiment. C'est qu'on est là à parler ici. On est là à vivre peut-être quelque chose d'absurde dans un corps humain qui, effectivement, on est un certain nombre à regarder un peu tout ça en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que nous sommes en train de nous réveiller. Donc, on a un regard qui commence à être différent. Et en même temps, on peut dire « Mais j'ai jamais été autant présent dans ce monde humain, sur cette petite planète bleue, là. Je suis très au courant de la façon dont ça fonctionne, ce qui est absurde, avec cette prise de pouvoir partout, ces mensonges, ces attaques, ces défenses. Ben oui, tout est bâti là-dessus. Et on apprend ça aux enfants. Voilà. Pour la plupart ne le voient pas, ça. C'est tellement automatique qu'ils sont comme drogués. Et c'est pour ça qu'on nous dit d'ailleurs que notre ADN, qui normalement fonctionne à 12 brins, notre ADN de lumière, a été bloqué sur 2 brins. Ce qui nous a fait passer depuis des millénaires et des millénaires, ce qui fait que nous sommes en état de survie ici, de survie. Et toute la société, les 7 milliards que nous sommes, pour la plupart, sont en état de survie, sans rendre pas compte, parce qu'en fait c'est tellement terrifiant de regarder ça, c'est qu'on ne veut pas le regarder, donc on fait semblant. Donc on s'occupe des élections, on s'occupe de gagner de l'argent, d'essayer de se défendre tant bien que mal. On crée des cours de justice pour condamner les uns, donc surtout pas soi-même mais les autres. On crée des armées pour pouvoir tuer ceux qui gênent. Et on crée des polices et on obéit aux ordres. Le principe d'une armée, d'une police, d'une cour de justice, c'est d'avoir une autorité et on obéit. On obéit et l'individu disparaît. C'est-à-dire que... Et au nom de quoi ? Au nom du bien commun. Alors on a pu voir par exemple, au début du dernier siècle, c'est un exemple, hein, mais il y en a comme ça, toute l'histoire en est plein, ça n'arrête pas, où les tsars de Russie sont éliminés, et puis finalement, ça mène à 20 millions de morts au goulag. Voilà. On voit en Chine, Mao Tse-tung, les dizaines de millions de morts, c'est hallucinant. On voit le Cambodge, on voit tout ça. Et puis, on arrive à notre niveau personnel, dans notre expérience personnelle, et on s'aperçoit que si j'ai le moindre jugement, eh bien, je crée tout ça. C'est-à-dire que si je juge quelqu'un, si je juge un terroriste, je crée le terroriste. Pourquoi ? Parce que Dieu est tout ce qui est. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit, et cet esprit, c'est qui nous sommes. Et donc, cet esprit-là, il est créateur. Et quand je dis un terroriste, c'est pas bien, je crée le terroriste. Quand je dis un frère ou une sœur est victime, je crée le bourreau qui victimise le frère et la sœur. Quand je dis un tel est un violeur, c'est pas bien, je crée le violeur. Je l'imagine. Et bien, immédiatement, car je suis puissant, je suis divin, donc j'ai quelqu'un, un personnage qui arrive et qui crée le rôle de violeur. Et puis de violer. Et oui, et c'est ça l'absurdité de ce monde. Quand on dit que ces deux mondes sont incompatibles, eh bien, le monde réel, il est réel, comme dit le cours en miracle dans son introduction, et cette introduction dit, ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Vous entendez bien, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Et puisque nous sommes ici à parler, puisque vous êtes là à vivre, et vous sentez ce corps qui respire, etc., ce personnage que vous croyez être, ça vient de quoi ça ? Ça vient de ce qui est, c'est imaginé, avec une puissance infinie. Et ça c'est tout l'univers que nous pouvons observer, l'univers observable. Et c'est vraiment observable. Alors quand on dit par exemple que cet univers... fait 14 milliards d'années-lumière. Évidemment, on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'on peut observer avec les yeux du corps, avec nos instruments, etc. C'est une observation. C'est une observation de quelque chose qui est totalement imaginé. L'univers est totalement imaginé. Y compris le temps et le corps. C'est les deux instruments qui nous servent à cette expérience fabuleuse, incroyable, cette expérience humaine et cosmique, parce que ça va au-delà de l'humain même. C'est l'identification à un corps particulier, ça peut être aussi un corps extraterrestre, enfin pour nous, pour 7 milliards, c'est un corps terrestre, donc masculin ou féminin. Et puis, ça c'est le premier ingrédient qui nous sert à cette expérience. Le deuxième, c'est le temps. Le temps est imaginé. Nos physiciens quantiques sont en train de le montrer. Le temps n'existe pas. Mais comme j'ai déjà dit ici, et si vous allez voir les physiciens quantiques qui disent le temps n'existe pas, allez les voir. Regardez comment ils vivent dans leur monde relationnel, dans leur vie quotidienne. Ils n'y croient pas. C'est-à-dire que ils le savent intellectuellement, mais ce n'est pas expérimenté. Or, nous commençons à l'expérimenter maintenant de plus en plus. C'est ce que vient de nous décrire Estelle, qui disait, mais c'est bizarre. Je me suis passionné, j'ai eu des visions incroyables de non-dualité, de ressenti d'amour, et puis voilà, je me retrouve confronté à cette espèce de monde absurde. Je vois des gens comme des corps, avec des problèmes. Oui, évidemment. Parce qu'elle commence à en prendre conscience, comme nous, comme vous qui écoutez ça. Et donc, il y a comme un no man's land, là. Il y a un passage, on peut dire, entre un monde et un autre. Mais les deux mondes sont totalement incompatibles. Ce que ne comprend pas l'ego. Et beaucoup d'entre nous qui commençons à être touchés par qui nous sommes vraiment, eh bien, pendant longtemps, on cherche à arranger le monde de l'illusion et le monde de la réalité. C'est impossible. C'est totalement impossible. Soit il y a séparation, soit il n'y a pas séparation. Soit Dieu est tout ce qui est, et à ce moment-là, nous sommes, cela est, ou alors Dieu n'est pas, il y a séparé, mais ça n'a pas de sens, et donc on ne serait pas là à parler. On peut dire même que ce monde absurde, violent, tout ce que vous voulez, qui semble détestable à beaucoup, et très souvent, ou qui peut sembler, comme disent les hindous, la vie est souffrance, voilà, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, si justement on peut expérimenter ça, c'est à cause de qui nous sommes. Je dirais que c'est même la preuve, c'est une façon de parler bien sûr, c'est la preuve que nous sommes qui nous sommes. Et Dieu est tout ce qui est. Mais c'est tellement être-té infini, c'est l'éternel, c'est l'alpha, l'oméga, qui s'oppose à rien. Et qui est totalement en paix. Et on peut dire qu'il y a conscience, c'est une façon de parler. Conscience que tout va bien. Conscience de l'éternel, conscience de la puissance infinie, conscience de ce qui est. C'est ce mystère de qui nous sommes qui restera toujours quelque chose d'extraordinaire, de fascinant, d'inimaginable. C'est je suis la vie. Je suis vivant. Alors évidemment, dans cette expérience humaine, quand on dit « je suis vivant », on dit « tu es vivant », mais attends, et dans combien de temps tu as encore... À quel âge as-tu? Tu as environ 40 ans à vivre, 50 ans à vivre, 10 ans à vivre, en moyenne, hein, en statistique. Mais ça, c'est le corps, justement, c'est l'identification à un corps. Alors on dit « mais moi, j'aurais aimé être Mozart, ou être Charlemagne, ou être Charles de Gaulle, ou même Gandhi, par exemple ». Mais ils sont où? Morts. Ah oui, donc la mort existe. Non, la mort n'existe pas. Je comprends pas. Oui, il y a eu rôle. Il y a eu identification à un corps. Comme nous, actuellement. Seulement, cette identification, elle est tellement bien faite, tellement puissante, en imagination, qu'elle semble vraiment réelle, parce qu'on a tout fait pour. Mais qui a tout fait pour? Qui nous sommes? Et c'est toujours cette question, c'est qui nous sommes? Il n'y en a qu'une. Socrate, il y a 400 ans avant Jésus-Christ, déjà, c'était en grec gnoti se auton. Gnoti, c'est l'impératif de connaître, connais-toi. Se auton, toi-même. Connais-toi toi-même. Alors évidemment, on va dire, mais je ne me connais pas, je ne me connaîtrai jamais. Effectivement, je n'aurai jamais fini puisque je suis infini. Parce que Dieu est infini. Donc Dieu, c'est impalpable. C'est donc un chemin incroyable, éternel, infini, magnifique. Mais maintenant, ce qui nous commence à nous toucher, avec effectivement des phases, comme vient de nous décrire Estelle, avec à des moments on ressent cette sensation d'amour, de présence, de magnificence. Puis à d'autres moments, on est confronté à cette petite expérience humaine absurde, apparemment, mais qui a son sens. Parce qu'en fait, effectivement, tout à l'heure, Avi parlait de l'eau, comme si nous étions des poissons qui sortons de l'eau, et on revient dans l'eau, et c'est délicieux de revenir dans l'eau. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'êtres qui ne sont pas dans ce monde terrestre et qui souhaitent s'incarner, disons, jouer cette expérience d'incarnation, pour avoir la joie de retrouver qui nous sommes là dans ce monde absurde. Parce qu'effectivement, apparemment, c'est un monde totalement absurde. Mais totalement absurde. Quand on voit comment ça fonctionne, c'est hallucinant. Maintenant, avec Internet, avec toutes ces vidéos, avec tout ça, avec ce qui se passe, on est au courant de beaucoup plus de la façon dont, disons, le dieu argent mène le monde. Et qu'est-ce que c'est que le dieu argent? C'est le dieu c'est le manque. C'est ce qu'on appelle c'est ce que le cours en miracle appelle les idoles. Il y avait déjà ça dans la tour de Babel. On fait une tour, on essaye de se donner un peu de valeur, on essaye de prétendre être grand, tellement on se perçoit petit, manquant. Et les êtres qui ont le plus d'argent ici sur cette planète, qui sont apparemment qui ont le plus de pouvoir, ils ont très peur. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent du pouvoir? Pourquoi est-ce qu'ils veulent gagner les élections? Parce qu'ils se sentent petits. Imaginez-vous, vous vous sentez, et on peut le faire, vous pouvez le faire maintenant, si vous respirez tranquillement, et vous vous sentez en paix. Vous vous sentez en paix. Voilà. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que vous voulez gagner une élection? Prouver que vous êtes meilleur que telle ou telle personne? Vous êtes en paix, vous êtes là. Qu'est-ce qui commence à se passer? Vous souriez. Et vous sentez que vous ne cherchez plus à prendre, à paraître. Vous vous ouvrez. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous avez envie de donner. Or, c'est ça, l'essence de qui nous sommes. C'est le don. Et la vie n'est que don d'elle-même, à l'infini. Et c'est là qu'on va toucher la nature de Dieu, ce qu'on appelle de Dieu, qui n'est que don de lui-même. C'est pour ça que le cours en miracle nous dit que Dieu, ou cette notion, c'est un mot, hein, forcément, mais ce qui existe, ce qui est éternel, ce qui est l'esprit un originel, qui est infini, qui n'est qu'esprit, il est créateur. Et qu'est-ce qu'il va créer? Eh bien, lui-même, parce qu'il n'y a que lui-même. Donc, la création, c'est pas une fabrication de quelque chose d'autre, c'est une extension de soi-même. Donc on peut dire, mais c'est des mots, bien sûr, c'est des concepts, que Dieu se donne lui-même à l'infini. Et nous sommes cela. Donc, puisque nous sommes Dieu qui se donne à lui-même, ben, nous nous donnons lui-même, nous ne savons faire que ça. C'est pour ça que nous ne sommes qu'amour et que nous ne savons donner que l'amour. C'est notre réalité profonde. Le reste, c'est imaginé. C'est une illusion. Donc le besoin, la sensation de manque, c'est une illusion. La sensation d'avoir besoin d'un compagnon, d'une compagne, parce que je ne suis pas assez, et j'ai besoin d'avoir parce que je me sens pas complet, c'est une illusion. Et l'histoire d'Adam et Ève dans la Bible, c'est exactement ça. Ça a été après ça traduit et la fin a été tronquée. Mais l'origine est tout à fait réelle. Adam et Ève, c'est imaginer l'homme et la femme, c'est le masculin et le féminin, tout ça c'est une métaphore, qui était dans un paradis, donc il n'y avait pas d'opposé. Il y a le bien sans opposé, le mal n'existe pas. Et puis c'est glissé cette petite pensée, cette petite idée folle, la croyance dans le bien et le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout à fait juste. Avec le symbole du serpent. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors on peut dire, c'est le symbole de la sagesse, oui, alors on trouve ça très normal et très sage, parce qu'effectivement, c'est très bien fait, cette idée de bien et de mal. C'est remarquable. C'est imaginé d'une manière incroyable. C'est le monde des opposés. Donc, c'est le monde de la séparation. Et effectivement, s'il y a croyance dans ce monde de la séparation, bien, on est chassé du paradis terrestre. Mais ce n'est pas un dieu extérieur qui va chasser, qui arrive dans le paradis puis qui dit « je te chasse ». C'est la croyance du Fils de Dieu, c'est-à-dire de l'expression de Dieu, de la manifestation de Dieu dans cet esprit. C'est dans cet esprit, il y a croyance à la séparation, donc la séparation est vécue comme réelle. Ce qui entraîne l'attaque, la défense, la mort, la décrépitude, toutes ces choses qui sans cesse se terminent. Ça n'a pas de sens. Mais c'est imaginé avec une puissance infinie. Donc c'est remarquablement bien fait. C'est ce que nous explique le courant miracle en disant que le monde que nous pouvons voir provient de cette pensée de séparation. Et il nous dit, vous n'imaginez pas la puissance de cette pensée, de cette sainte petite idée folle. Quand on voit ça, on se dit, mais on est dingue, on est malade. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est inhérent, on n'y peut rien. On est tellement infini que même cette pensée, elle va se glisser. Eh bien oui, et elle est accueillie, elle est aimée, puisque nous ne sommes qu'amour. Et là, on commence à voir l'importance de l'innocence. Parce que nous avons choisi ce jeu en pleine connaissance de cause pour nous amuser. Tiens, et si nous n'étions pas qui nous sommes, tiens, on joue à ça. Quelle rigolade. Et au début, c'est drôle. Et comme dit le courant miracle, tout a commencé, disons, l'apparence de souffrance, l'apparence de manque, l'apparence de mal-être. Tout a commencé quand le fils, c'est-à-dire l'expression du père, l'expression de la source, a oublié de rire à la pensée de séparation. Parce que nous sommes qui nous sommes. Et on n'a aucun problème. On n'a aucun problème. Alors on peut dire, oui, mais ok, Sylvain, c'est bien gentil, aucun problème, n'empêche que moi j'ai choisi cette expérience, donc je me suis aliéné dans cette prison humaine, avec un corps masculin ou féminin, très bien. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je ne sais pas, mais je sais. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je fais, mais je sais ce que je veux voir. Et donc, je commence à commencer à comprendre que ce qui est important, c'est ma décision. Ma décision, pourquoi? Pour l'illusion ou pour la vérité? Et tout à l'heure, quand Estelle nous décrivait son expérience, effectivement, on la connaît tous, cette expérience, parce que c'est comme si nous sommes en plein processus, justement, d'apprentissage, où de plus en plus, on choisit la vérité et non plus l'illusion. Je choisis l'amour. Le féminin en nous, c'est pour ça que beaucoup de femmes, c'est pour ça que vous avez vu, toute l'action guerrière, c'est plutôt masculin. Cela dit, on est depuis quelques millénaires dans un patriarcat, mais il y a eu des matriarcats dans d'autres époques. Donc il ne s'agit pas d'aller critiquer les hommes ou les femmes, ou d'aller dire que les femmes sont plus que les hommes, ou les hommes plus que les femmes. Ce n'est pas du tout ça. On parle du féminin et du masculin que nous avons en nous. Et effectivement, nous comprenons vraiment que nous ayons choisi une incarnation dans un corps homme ou un corps femme, ce qui nous importe, c'est le féminin qu'on place au centre. Et qu'est-ce que c'est que le féminin? C'est l'accueil. C'est la sagesse, c'est le oui. C'est je reçois le don de Dieu. C'est-à-dire, je reçois la vie qui s'est donnée elle-même. Et donc, je la donne. Mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et donc j'ai choisi une expérience humaine qui est une expérience extrêmement duelle. Et là, à ce niveau-là, au niveau de cette petite planète bleue, là, dans mon expérience, ma fonction, c'est d'aimer. Mais je ne peux pas aimer si je ne m'aime pas moi-même, si je ne reçois pas l'amour. Et si je critique tel frère ou telle sœur, je me coupe. Si je veux prendre, je me coupe. Pourquoi? Parce que je suis tout. Est-ce que Dieu va chercher à prendre de l'argent? Est-ce que Dieu va chercher à gagner les élections? Est-ce que Dieu va chercher à avoir un enfant et puis posséder l'enfant? À le reprendre à ses parents? Mais non. Non, c'est je t'aime, je t'aime. J'aime. Donc, le secret, on peut dire, ce n'est pas un secret. Il n'y a qu'une attitude. C'est l'attitude de qui nous sommes. C'est-à-dire l'attitude d'amour inconditionnel, pas conditionnel. Le monde de la séparation, le monde de l'ego, ne connaît pas l'amour inconditionnel. Il parle d'amour tout le temps, le monde de l'ego. Il n'arrête pas. Mais c'est un amour conditionnel. Ce qui n'a rien à voir avec Dieu et tout ce qui est. Ça n'a rien à voir avec qui nous sommes. Ça n'a rien à voir avec la magnificence incroyable de qui nous sommes. C'est pour ça que le message non-duel, quand je dis message, on est tous messages, hein, on est les messagers, tous. Eh bien, c'est qui nous sommes. Et c'est simple, c'est ultra simple. Mais il n'y a pas de mélange. Donc j'ai bien aimé cette intervention d'Estelle où elle décrit ce que nous connaissons. Parce que quand on se réveille le matin ou après un sommeil, moi c'est pareil, moi je suis dans la soupe, tout à l'heure j'ai dormi après le déjeuner, je me suis réveillé, j'avais des pensées, j'ai été capté cette dualité, et donc il y a un travail qui se fait. Alors je dis, oh là là, alors, et puis ça me fait rire. De plus en plus on rit, on dit, ah oui tiens, ah oui évidemment, ben, on est ici dans un monde de très duel, avec des opposés très forts. La séparation semble vraiment réelle. Évidemment, on l'a imaginé avec toute notre puissance divine, donc c'est très bien fait. L'identification au corps particulier avec ses besoins à satisfaire, c'est très bien fait. Donc peur de la mort, puisqu'on s'identifie au corps. Donc peur de disparaître, peur de perdre notre personnalité. Il faut lui donner une petite valeur à cette personnalité, ou même une très grosse valeur. Alors on va avoir des grosses voitures, une belle maison, on va avoir une jolie femme, on va avoir, etc., un homme puissant, et on va essayer de paraître. On connaît tout ça parce qu'effectivement, c'est inhérent à l'expérience. Et c'est ce que nous apprenons à nos enfants, bien sûr. Et nous l'avons appris de nos parents, qu'ils l'ont appris de leurs parents. Et on s'est enfoncé peu à peu dans ce rêve où on s'imagine bien faire, comme dit le courant miracle, vous ne cessez, pour faire le ciel, d'utiliser des moyens qui font l'enfer. Comment ? Quand j'essaie de protéger, j'essaie de créer une armée, etc. Mais oui, mais je cherche à défendre, donc je donne une réalité au danger. Je veux préparer des armes contre des ennemis éventuels, je crée l'ennemi. Évidemment, à ce moment-là, j'ai un ennemi qui arrive, parce que je suis créateur, tiens. Eh oui, je ne peux pas ne pas être qui je suis. Et c'est ce que nous dit Jésus, l'enseignement de Jésus, qui parle du Père et du Fils. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que le Fils ne peut pas, n'est pas le Père, et pourtant le Fils et le Père sont un. Comme il disait, le Père et moi sommes un. Mais le Fils, la notion de Fils fait que je ne peux pas décréer le Père. Donc je suis le Père exprimé, et le Père, c'est un concept, hein, bien sûr, c'est l'éternel, c'est ce qui est. Je suis cela. Et ça, c'est la loi divine, c'est la loi de ce qui est. Et cela est. Cela est éternellement au-delà du temps et de l'espace. Si cela n'était pas amour, si cela cessait d'aimer, on n'existerait pas instantanément. Il n'y aurait rien. Et si justement il y a quelque chose, si devant moi il y a une table, là, si j'ai les pieds par terre sur un plancher, etc., c'est parce que tout ça s'est imaginé avec des vibrations incroyables, une complexité inimaginable, si la naissance d'une planète, la création peu à peu, cette imagination qui se sert d'un temps illusoire pour fabriquer une biosphère, où ça va mettre 14 milliards d'années peut-être dans des années illusoires, à créer, à fabriquer, et ensuite on prépare la vie avec des molécules et puis des amphibiens, etc., puis peu à peu des poissons, puis des animaux, puis des singes, et puis peu à peu un être humain qui évolue. Et qu'est-ce que c'est? Un véhicule d'expérience, c'est tout. Pour qui? Pour qui je suis? Pour qui nous sommes? Donc que le poisson qui est là, qui passe, le merle qui passe, ou un éléphant, c'est moi. Puisqu'il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est. Mais on peut dire que Dieu, donc, a conscience de tout et en même temps s'amuse, c'est une façon de parler, la vie s'amuse à l'individualisation, à l'infini, avec les 7 milliards que nous sommes, et puis les animaux, tout ça, et puis ça disparaît et ça recommence. Donc la mort n'existe pas. Et là, je suis en train de parler de qui nous sommes vraiment, parce qu'au niveau même cosmique, il y a individuation. c'est pas un mot français, mais en anglais c'est individuation, c'est ce mystère de qui nous sommes, c'est-à-dire nous sommes un et en même temps on peut dire qu'il y a différentes âmes et pourtant il n'y a qu'une seule âme. Vous voyez, donc on touche à quelque chose de fort. Maintenant, nous regardons cela en face et ça nous aide. Ben oui, ça nous aide en disant, mais bon sang. Ok, je peux oublier tout ce que je viens de dire, mais j'oublie pas l'amour. Parce que finalement, si je regarde tous les enseignements non-duels, si je regarde tout ça, tous les livres, toutes les vidéos, tout ça, quand on... Je regarde même les récits bibliques, les textes, les écritures dans différentes religions. Il y a plein de mélanges. Il y a plein de choses contradictoires qui sont dites, mais derrière, je commence à sentir l'authenticité à l'origine. Pourquoi ? Parce que partout, chez tout le monde, il y a toujours eu ce sens du sacré, ce sens de qui nous sommes. Parce que cette lumière-là que nous sommes, elle ne peut pas s'éteindre. Elle peut être voilée, on s'est amusé à faire semblant d'être séparés. Alors on s'amuse, on voile tout ça, et puis on dit, bon, on va jouer à ne pas être qui nous sommes, à être séparés. Alors on fait une pièce de théâtre. Alors au début c'est amusant, puis peu à peu c'est plus amusant du tout parce qu'on commence à se haïr et on vit le manque, on vit la peur, on vit la culpabilité et l'angoisse. Et là je viens d'employer le mot culpabilité. Et c'est fondamental parce que nous sommes innocents, il n'y a que des innocents. Dieu est innocent et comme il n'y a que Dieu, eh bien le péché n'existe pas. On n'a rien à accomplir, on n'a rien à atteindre, donc on ne peut pas faillir. Parce que le péché, c'est le concept d'erreur, de choses qu'on a ratées. On n'a rien raté du tout. Au contraire, on a fait une expérience magnifique, extraordinaire, remarquablement faite. Bravo. Cette aventure humaine, elle est extraordinaire. Alors on va dire, comment elle est extraordinaire, mais regardez les guerres, cette violence... Oui, c'est vrai, mais justement, on a pu même imaginer ça. On est tellement divin à l'infini que c'est tellement qu'on peut même s'amuser à ça. Comment tu parles de s'amuser, tu crois que c'est amusant, les guerres, etc. Non, effectivement, c'est pas amusant. J'ai envie de dire, vous avez envie de continuer? Tout le monde va dire non. Même le monde de l'ego dit non, j'ai pas envie de continuer, moi j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie des guerres, moi j'ai pas envie de tout ça. Même un conquérant, il n'a pas envie. Seulement, il a oublié qui il est. Et il y croit à cette séparation. Il croit que c'est réel. C'est pour ça que cette spiritualité, cette non-dualité, de regarder en face ce dont nous parlons ici, ça devient fondamental. C'est la seule clé qui nous permet de sortir de ce rêve. Et justement, ce rêve, il a pour but de se réveiller. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors on dit, mais ça paraît intellectuel. Ça paraît intellectuel. Pas du tout. C'est pas intellectuel du tout. Est-ce que c'est intellectuel de tendre la main à son frère ou à sa sœur? Et dire, tiens, t'as faim. Mais tiens, regarde, tu vois, j'ai un sandwich. Tiens, en voilà un morceau. C'est pas une action en soi qui a une valeur. C'est simplement un prétexte pour exprimer de l'amour, c'est tout. Et quand je suis seul chez moi et que même je suis au milieu de la nuit à 3h du matin et que je vois personne, mais je peux être dans l'amour. Et si je pense à telle personne qui justement qui peut-être m'en veut ou qui m'agace, je peux dire mais je t'aime. Tu me joues un rôle parfait. Puisqu'il n'y a que qui nous sommes. La pièce de théâtre est finie, c'est joué. Ça ne peut pas être autrement puisqu'il n'y a que Dieu, que qui nous sommes, il n'y a que l'amour. Le non-amour n'existe pas. Il n'y a que la lumière, l'obscurité n'existe pas. C'est un manque d'obscurité imaginé. C'est vraiment ça la non-dualité, c'est ça dont nous parlons. Et ça nous concerne dans notre petit microcosme quotidien. Là, avec on va acheter une paire de chaussures, on va prendre le métro, on va téléphoner à quelqu'un, ou aller dépenser un peu d'argent, dire « Oh là là, il m'en manque, je sais pas comment je vais faire ?» Mais je parle de quoi là? Je suis qui je suis. Je me suis imaginé avoir besoin d'acquérir de l'argent. D'acquérir des relations, comme on dit, d'avoir un peu de notoriété, d'être élu aux élections, de faire partie du conseil général, d'avoir des enfants qui me reconnaissent. Et on regarde partout, toutes les sociétés regardées, même les sociétés traditionnelles. On veut des enfants pour que, quand on est vieillard, on soit reconnu, on soit aimé. C'est toujours le même processus. C'est un processus d'ego, de séparation, de peur. Est-ce que Dieu a peur? Est-ce que ce qui est éternel a peur? Ah, pour ça que, encore une fois, je reviens à ces trois petites phrases qui sont à la fin de la courte introduction du cours en miracle, qui dit « Ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. Cette paix, c'est qui nous sommes. » Alors c'est vrai que ça demande de la confiance. Mais la confiance, c'est maintenant. Vous comprenez? Et maintenant, c'est toujours maintenant. C'est pour ça que quand vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes tout le temps repris par l'ego, que c'est infernal, c'est trop lourd, rappelez-vous bien, il n'y a que maintenant. Est-ce que vous vivez le passé? Est-ce que quelqu'un a vécu le passé? Non, c'est impossible. Le passé, c'est le passé, par définition, il n'est pas là. Et le futur, par définition, il n'est pas là non plus, puisque c'est le futur, c'est demain, c'est l'année prochaine, c'est dans 100 ans, etc. Mais c'est toujours maintenant. Qu'on le veuille ou non, l'expérience est toujours maintenant. Et même si on va faire des régressions et qu'on va aller avec des thérapeutes ou autres, on va faire des régressions dans des vies passées où on apprend qu'on a joué tel ou tel rôle, on aurait joué tel ou tel rôle, très bien, mais quand est-ce qu'on a cette expérience-là? Maintenant. Il y a toujours maintenant. Donc, on est toujours maintenant. Et maintenant, c'est maintenant. Donc, c'est Dieu est tout ce qui est. Et maintenant, donc, tout va bien. Tout va bien. Alors, on va dire, oui, mais supposons que, par exemple, tu tombes d'un avion et puis tu vas t'écraser par terre. Est-ce que tu trouves que tout va bien? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de réponse à cette question. Parce que je ne sais jamais ce que j'ai à faire, moi, puisque il n'y a que maintenant. Donc, je ne m'occupe que de maintenant. Et donc, toutes ces questions, dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais? Mais j'en sais rien. Je ne sais jamais. Si demain, telle personne te dit ceci ou cela, mais je ne sais pas. Je suis dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, je suis ma guidance, comme disait tout à l'heure Avi, il parlait de guidance, d'écoute, on écoute et on fait ce qu'on sent. Et la guidance, ce n'est pas pour demain. C'est toujours pour maintenant. Y compris guidance de prendre un billet d'avion pour dans 2 mois. Mais je la prends maintenant, cette décision. C'est toujours maintenant. Et donc, quand je prends mon billet d'avion pendant 2 mois, je prends un billet d'avion, évidemment, l'ego me rattrape en disant, oui, mais tu vois, tu as dépensé de l'argent, tu vas perdre ton billet si tu n'y vas pas. Si c'est le plan divin que je n'y aille pas, j'irai pas. C'est tout. Je fais ce que je sens. Et donc, j'agis en écoutant ma guidance dans l'instant et je me suis détaché de mon action. Ça veut dire, j'achète mon billet d'avion, par exemple, et bien si je pars pas, je pars pas. C'est tout. Mais tu as perdu de l'argent. Mais perdu quoi? D'où venait l'argent avec lequel j'ai acheté le billet d'avion? J'ai ce qu'il faut maintenant. Et maintenant, nous sommes très nombreux à avoir justement des expériences qui se produisent en cascade, où on nous montre à quel point rien n'est une sécurité. Aucune relation, aucune somme d'argent. Oh, rien n'est une sécurité dans ce monde. L'ego ne supporte pas d'entendre ça. Ça fait peur, effectivement. Et on ne peut pas le regarder. Seulement, les expériences des uns des autres s'accélèrent de plus en plus et on s'aperçoit que, quelque part, c'est comme si ça nous montre ça en disant « Regarde, regarde. Arrête de te cacher la face, de te voiler la face. Écoute ton cœur, écoute ta guidance intérieure. » Et donc, je reviens à ce que partageait tout à l'heure Estelle quand il disait « J'ai vécu des moments où ça me passionne finalement de cette non-dualité, ce sens de l'amour. » Et puis je me retrouve ne pas le vivre. Oui, mais je choisis de le vivre. C'est-à-dire que dans l'instant présent, je dis « C'est ça que je veux. » Et on comprend un peu mieux toutes tes premières leçons du livre d'exercice du cours Mira qui sont par exemple « Par-dessus tout, je veux voir. Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. » Ou alors, le monde que je vois n'offre rien de ce que je veux. Rien. Pas d'argent, pas des relations, rien. Le monde que je vois, avec la façon dont je le vois, n'offre rien de ce que je veux. Et la leçon d'après, c'est derrière le monde que je vois, il y a un monde que je veux. Et ce monde que je veux, c'est un monde de plénitude, d'amour, de liberté, de joie, de bonheur. De bonheur. Le cours en miracle parle beaucoup de bonheur. Et en disant, la volonté de Dieu pour moi, c'est le bonheur. Et comme la volonté de Dieu, par définition, est accomplie, Dieu n'est que bonheur. Donc nous ne sommes que bonheur. Comment nous sommes que bonheur? Regarde autour de toi et regarde. Tu crois que les gens vivent le bonheur? Ah, ils imaginent le malheur. C'est très bien fait. Alors, on peut continuer et on est libre. Et vous êtes libre, nous sommes tous libres. C'est pour ça que on ne s'occupe que de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de soi-même? Ça veut dire je m'occupe de qui je suis et de qui nous sommes. Alors tu ne t'occupes pas des autres, mais ce n'est pas sympathique, ça, c'est pas altruiste. Si, si, je m'occupe des autres, complètement. Je m'occupe que de moi-même. D'ailleurs, c'est ce que dit le courant miracle, tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter l'expiation, c'est-à-dire la vision que tout est un, pour toi-même. Parce que quand tu fais ça, tu le fais pour tout le monde, puisque tu vois que tout est un. Donc, être vraiment dans l'amour inconditionnel de tous mes frères et sœurs des 7 milliards, c'est m'occuper que de moi-même, que de ma vision intérieure. Mais quand même, il y en a qui ont faim, il y en a qui crient au secours, et tu t'occupes pas d'eux. J'écoute ma guidance. J'écoute ma guidance, dans l'instant. Et c'est fondamental. Parce que si chacun, si les 7 milliards que nous sommes ici, écoutaient vraiment leur guidance, croyez-moi, la planète, ça serait un paradis. Ça serait fabuleux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul acteur. Seulement cet acteur-là, c'est l'esprit que nous sommes, c'est le Christ que nous sommes, il peut parler contre nous. Puisqu'il est nous. Vous comprenez? Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'esprit, il n'y a que ce que le cours appelle le Saint-Esprit, ce que Jésus appelait le Saint-Esprit. Il se respecte lui-même à l'infini. Donc il respecte le jeu. Et en même temps, il gère le jeu. C'est pour ça que c'est une blague comique, cette affaire. On a donc deux choses apparemment différentes. Une autorisation de imaginer ce qu'on veut, les guerres, la lutte, la séparation, donc l'attaque, la défense, la mort, la décrépitude, la souffrance. Elle n'est pas désirée, la souffrance, mais elle est inhérente à ça. Personne ne désire souffrir. Et pourtant, on veut souffrir parce qu'on se sent coupable. Donc, on veut être puni. En disant, comme ça, je ne serai pas. On ne va pas me tuer. Dieu ne va pas me manger. Donc, d'un côté, il y a cette autorisation à l'infini. Tu veux ça? Tu l'as. Puisque tu n'es que Dieu. Tu joues la séparation? Oui. Et puis, il y a en même temps ce qu'on appelle le plan divin. C'est-à-dire que tout est fait en laissant tout libre et en même temps tout est géré. Parfaitement. Depuis l'origine d'un temps qui n'existe pas. C'est pour ça que c'est une blague. Tout va bien. Et quand je dis que c'est une blague, tout va bien, je m'occupe vraiment de mes frères et sœurs. Vraiment. C'est même la seule façon raisonnable, la seule façon d'amour inconditionnel de m'occuper de mes frères et sœurs. Je m'occupe de qui nous sommes. Et ça, ce que je suis en train de dire là, ça parle à tout le monde parce que c'est qui nous sommes. C'est ce que dit le courant miracle à la fin du chapitre 1 en disant on va aller doucement parce que ça peut faire monter les peurs, mais d'un autre côté, tout le monde sait de quoi on parle ici. Mais oui, évidemment, puisque c'est qui nous sommes. Et même s'il peut y avoir des oppositions violentes, il peut y avoir des portes qui claquent, à certains moments, on comprend très bien pourquoi. Mais ça touche forcément. C'est ce que nous voulons tous. Et quand je m'occupe de mes frères et sœurs, je m'occupe de ce qu'ils veulent vraiment. Et les 7 milliards que nous sommes ici, nous voulons nous réveiller à qui nous sommes, c'est tout. C'est le but de ce jeu qu'on a voulu jouer ensemble, nous réveiller à qui nous sommes. Comment? Par l'amour, c'est-à-dire par l'accueil. Parce que aimer et accueillir, c'est la même chose. C'est pas faire plaisir, c'est pas essayer d'alimenter le feu de la séparation. D'essayer d'arranger un peu les choses. Bien sûr, je vais avoir la joie de partager ma nourriture, de partager mon logement, de donner des choses matérielles, même quand c'est l'heure. Mais je ne sauve personne en faisant ça. Ça n'est qu'un prétexte pour exprimer l'amour. Et ça peut aussi être un prétexte pour exprimer l'amour de recevoir. De dire, ah, oui, je sens que c'est juste. Merci de ton cadeau, de ce que tu me donnes. Mais je le reçois au nom de qui nous sommes. Et il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus d'attachement. Dans les années qui vont venir, ceux qui se réveillent à qui nous sommes vraiment vont avoir à leur disposition beaucoup plus d'argent. Il y a eu un nettoyage, il y a eu un travail, beaucoup plus de possibilités matérielles pour de nouvelles manifestations matérielles. Seulement, il y a eu une purification énorme qui s'est faite. C'est pour ça que la plupart de ceux, vous avez pu observer, beaucoup de ceux qui se réveillent un peu à qui nous sommes vraiment, eh bien, semblent avoir des expériences un petit peu, sans beaucoup de facilité matérielle, des choses comme ça. C'est fait exprès par le plan d'amour, pour vraiment que les choses soient bâties sur le roc. Ce que disait Jésus il y a 2000 ans, n'investissez pas dans ce qui est périssable, ce qui rouille. Qu'est-ce qui ne rouille pas? C'est ce qui est. Ce qui est. Et ce qui est, c'est l'amour. Et l'amour est inconditionnel. L'amour conditionnel n'est pas l'amour. Encore une fois, l'amour dont parle l'ego, il y en a plein nos journaux, plein nos télévisions, plein nos conversations, on peut écouter les uns les autres, ce n'est pas l'amour. C'est quelque chose de conditionnel, c'est un déguisement pour pouvoir prendre, pour pouvoir attaquer et défendre. Donc faire des différences et séparer les choses. Alors qu'en fait, tout est un. Et cette prise de conscience, elle se fait d'elle-même. On ne peut pas la maîtriser, parce qu'on ne maîtrise pas Dieu. On laisse Dieu se révéler. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Alors bien sûr, on se sert de concepts, on en parle, on échange entre nous, mais quelque part, on se retrouve seul face à soi-même, les uns les autres. Et il y a comme un passage dans le vide, il y a « je ne sais rien » et c'est là que ça commence. Je ne sais pas, mais je laisse l'esprit me montrer le chemin. Je laisse l'esprit ouvrir la route. Je choisis l'amour et je dis non à l'illusion de la séparation. Encore une fois, j'aime bien dire « c'est tout et c'est tout ». C'est tout avec un petit t et c'est tout avec un grand t.
m'a beaucoup parlé tout à l'heure quand tu as parlé de culpabilité. Parce qu'en fait, je ressens que je peux sentir beaucoup de culpabilité de ne pas être qui je suis et d'avoir eu la chance. Enfin, voilà, comme si en fait j'avais la chance dans mon plan divin. Ça me fait pleurer parce que. D'accéder à ça. Et je sais que je vais aller vers ça et que ça fait partie du chemin de mon âme d'avoir accès à ça, de pouvoir après apporter quelque chose. Mais là, actuellement, en fait, je ressens énormément de culpabilité. Enfin, ça m'a parlé ce que tu as dit parce que je me sens incapable de recevoir. Enfin, mon ego ne sent pas à la hauteur. Enfin, je sais pas, il y a un truc de qui je suis, comme si j'avais été révélée à qui je suis et que j'ai cette chance-là. Et qu'en même temps, pour l'instant, je fais le contraire. Enfin, j'ai une culpabilité de ne pas être qui je suis. Là, je la vis, quoi. Et en même temps, ce que je sens aussi, c'est que, voilà, pour l'instant, c'est d'accepter, d'accepter que c'est aussi ça, quoi. Que j'ai rien à faire et qu'il n'y a rien à faire et que c'est, voilà. Mais, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais, voilà, je sens cette culpabilité qui est énorme d'avoir eu accès à quelque chose, de sentir que qu'il y a comme une mission, enfin, c'est quand, sur le plan divin, même s'il n'y a rien à faire, il y a quand même, les âmes ont quand même voilà, on a quand même voilà. Et je sens ça, et je sens une culpabilité de pas y aller, il n'y a rien à aller, enfin, rien à faire, mais je sens quand même que, voilà, comme s'il y avait, enfin, je sais pas comment expliquer, bref. Voilà, enfin, merci pour ce que tu as dit, parce que ça m'a beaucoup parlé.
Cette culpabilité, elle est très forte. Jésus dit tout enseignement non duel, quelque part il dit ça d'une certaine façon, c'est le Fils de Dieu est innocent et dans son innocence se trouve son salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? C'est la vision qu'il n'y a rien à sauver, que tout est ok. C'est dans l'innocence. On se sent coupable justement d'avoir choisi ce jeu de la séparation. Parce que ça entraîne tellement de chaos, tellement de violence apparente qu'on prend ça pour nous en disant mais j'aurais pas dû, j'ai pris la place de Dieu et on est terrifié. Le cours au miracle parle énormément de cette culpabilité. Tout à l'heure, vous savez que nous allons partir avec Avi et d'autres personnes en Israël la semaine prochaine, dans une semaine, et je téléphonais à, nous allons avoir sur place, nous allons retrouver deux personnes, une certaine Tal chez laquelle j'étais l'année dernière quand j'étais en Israël, et puis également Eliyahu Maclean, qui est ce américain rabbin qui est là-bas et qui travaille avec les Israéliens et les Palestiniens pour les mettre ensemble, qui sent très fortement ce voyage, ce déplacement aussi, comme nous tous qui y participons, et Yeshua nous a demandé de l'inviter à être avec nous. Je lui ai téléphoné tout à l'heure, plutôt hier soir, et il vient nous voir. Mais j'ai téléphoné tout à l'heure à Dave Shock, qui est l'Américain qui a canalisé avec moi la conversation avec Yeshua, nous invitant à aller de nouveau en Israël. Et il me disait qu'il rentrait de 3 semaines à Bali, chez Jayem, la voie de la maîtrise, et d'un travail qu'ils font qui s'appelle justement Palpable Forgiveness, le pardon palpable. Et il dit, on a travaillé avec Judas, cette notion de culpabilité formidable, et on a tous un Judas en nous, c'est-à-dire en fait Judas, c'est le bouc émissaire. Et on dit c'est un Judas, etc. Alors qu'en fait, il a joué un rôle parfait qui était nécessaire, qui était dans le plan. Et Jésus le savait très bien. C'est son frère chéri qui, et il y a eu un rôle qui a été joué. Parce qu'entre nous, d'ailleurs, c'était décidé comme ça. Et de toute façon, s'il n'y avait pas eu de Judas, de toute façon, il y a quand même la crucifixion entre nous. Bon. Mais il y a quelque chose avec cette culpabilité. Et il y a un nettoyage très fort. C'est pour ça que je me sens appelé à reprendre ce que tu viens de dire, Estelle, par rapport à la culpabilité, parce que nous sommes tous là-dessus. C'est comme si le plan divin fait ressortir ça d'une manière très forte. Ça peut être une culpabilité par rapport à des prises de pouvoir dans la matière ou à des prises de pouvoir psychologiques, dont on va dire relationnelles. Et c'est gigantesque ce dont je parle. C'est les deux grands trucs, c'est les deux grands terrains de travail, les relations intimes, et également les relations avec la matière, donc le pouvoir, l'argent, ou les possessions, les richesses matérielles. Et là, il y a une culpabilité formidable. Très souvent, on entend dire, par des médiums, des gens qui font un certain travail, qui vont regarder des vies antérieures, et vous avez certainement entendu dire ça souvent, « Ah bien, là, tu travailles quelque chose parce que tu as eu un certain pouvoir, etc., et puis tu en as abusé. Tu l'as repris à des fins personnelles. » Mais évidemment, c'est l'ego. On va dire, mais c'est la moindre des choses. On fait tous ça. Jésus dit lui-même, je me suis incarné la dernière fois, il y a 2000 ans, mais avant j'étais déjà venu, et j'ai tout expérimenté. La colère, la luxure, la jalousie, la haine, l'envie de tuer, etc. Tout. Parce que sinon, tout ce que je vous dis, vous pourriez mettre à la poubelle. Parce qu'en fait, et c'est très difficile de comprendre ça, tout est neutre. Parce que c'est un rêve. Vous comprenez? Donc, une guerre, c'est neutre. Comment on dit c'est neutre? C'est neutre. Mais regardez un petit peu les larmes que ça fait, les cris de désespoir, les gens qui sont... On se tue allègrement les uns les autres, on tue des corps d'accord peut-être, mais enfin, en attendant, ça crée une souffrance intolérable, psychologique, et puis aussi souvent physique, avec des douleurs, des blessures, etc. Oui, oui, absolument. C'est pas nié. On a décidé de jouer ce jeu de la séparation et on s'en sent coupable. Effectivement, on peut dire, mais comment on a pu faire ça? Puisque regardez un petit peu ce qui se passe, regardez où va la société actuellement, comment... C'était inhérent au jeu. Quelle que soit l'apparence. Il y a quelque chose de intolérable quand on a la vision de la réalité. Et cette chose intolérable, c'est de vouloir encore donner une réalité à l'illusion. Ça n'a aucun sens. Ce dont nous parlons ici, ce que nous échangeons, encore une fois, je le répète, c'est un changement total de vision intérieure. Où on laisse l'amour, on laisse la lumière, la réalité, se révéler d'elle-même. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Mais en réalité, il n'y a pas d'éveil. Tout le monde dit, parle d'éveillé, alors on va suivre un gourou, un tel est éveillé, ben non, il n'est pas éveillé, etc. On discute, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'un éveillé ne voit que des éveillés, puisque quand on s'éveille à quoi? Je prends conscience de ce qui a toujours été là. Il n'y a que la lumière, c'est tout, rien d'autre. Dieu est tout ce qui est, il n'y a pas d'opposé. C'était imaginé. Il y a eu des guerres, mais il n'y a pas d'opposant, c'est ce que dit Jésus, en disant, vous croyez à la guerre, mais il n'y a pas d'opposant. Dans cette lutte infernale entre les t-shirts blancs et les t-shirts noirs, évidemment, l'ego est toujours du côté des t-shirts blancs, bien sûr, il est toujours t-shirt blanc, bien sûr, c'est toujours les autres qui sont les t-shirts noirs. dans cette bataille éternelle, infernale sur cette planète entre les t-shirts blancs et les t-shirts noirs, qui va gagner? La réponse, ben c'est évidemment les t-shirts blancs, parce qu'il n'y a pas de t-shirt noir. Il n'y en a pas. C'est imaginé. L'ennemi est imaginé. L'ego a besoin d'un ennemi, parce que ça lui permet de projeter sa culpabilité à l'extérieur. La culpabilité, justement. C'est ça tout le truc. Et de vraiment dire, bon, ok, je me sens coupable. Peut-être, j'ai ce sentiment. Comment est-ce que Dieu me voit? Et ça, ça peut être très guérissant. Est-ce que Dieu me voit coupable? Mais non, c'est ce qu'on n'a pas compris. À l'origine, c'était les religions qui ont donné une réalité au péché. Mais ce n'est pas ça le message. Le message, c'est un message d'innocence générale. Dieu est tout ce qui est. Mais Dieu est tout ce qui est, il n'y a pas de coupable. Dieu ne va pas trouver des coupables en lui-même. C'était déjà dans la Bible. Une maison ne peut pas être divisée contre elle-même. Ça n'a pas de sens. Elle est une. C'est un symbole, évidemment, mais ça veut dire oh, c'est un. Et donc, dans ce un, le un que nous sommes, il n'y a pas de culpabilité, ça n'a pas de sens. Donc, comment Dieu me voit? Il me voit totalement innocent, il se réjouit. Oui, mais j'arrive pas, je manœuvre, j'essaye de prendre, j'essaye de me battre à mon boulot pour essayer de prendre la place de quelqu'un d'autre, j'en sais rien quoi, enfin bref. J'essaie d'attirer telle personne, de me faire bien voir, je fais des secrets pour surtout qu'on voit pas que je pense ceci ou cela, etc. Oui, mais comment Dieu voit ça? Comment Dieu te voit? Respire tranquillement. Regarde. Écoute. Tu vas commencer à entendre une voix qui te dit « Tu es innocent parce que tu es moi. » Voilà, c'est ça que dit la voix. C'est ce qu'on appelle le Christ. Et donc, ça peut être une grande aide de se dire « Comment est-ce que l'esprit me voit ?» Mais ce n'est pas l'esprit qui est donné par les religions, qui est un Dieu vengeur, qui est un Dieu qui règle des comptes et qui sépare les justes et les non-justes. Ça n'a pas de sens. Il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, je dis que ça n'a pas de sens. C'est différent. Parce qu'il y a des raisons. Parce que justement, l'illusion est tellement bien faite que ça crée, disons, ça engendre ça. Donc c'est ok. Tout ce qui se passe, toutes les déviations, toutes les erreurs, elles font partie de ce jeu. Et elles sont neutres. Ça n'est que des illusions, c'est tout. Et donc, il y a innocence. Donc il n'y a que des innocents. On peut dire qu'il n'y a que des ignorants, ou beaucoup d'ignorants, c'est tout. Mais un enfant qui va à l'école et qui apparemment est ignorant d'un certain programme, est-ce qu'on considère qu'il est coupable? Non, il est ignorant. On s'est amusé à oublier qui nous sommes. Mais il n'y a pas d'ignorance, parce que quelque part on ne peut pas oublier. Et c'est ce que nous explique le courant miracle, c'est pour ça qu'il appelle le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit le sait, il n'oublie pas. Et il nous dit, le courant miracle, par exemple, Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Tu comprends, Estelle? Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet, c'est-à-dire qu'en fait, tu es ma fille bien-aimée en qui je me réjouis. C'était ce qui était dit dans ce qui est rapporté dans les Écritures, lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, en Palestine il y a 2000 ans. Qui est dans les cieux sont ouverts, une voix est sortie, a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me réjouis. Ça a été traduit comme ça. Parce qu'effectivement, il y avait une telle énergie. Mais Jésus véhicule en disant, mais c'est dit à vous tous. Il dit d'ailleurs, mais vous êtes bloqués sur mon personnage, mais vous ratez mon message. Je suis le message, nous sommes le message. Le message, c'est qui nous sommes. C'est pas qui est Jésus séparé des autres. C'est qui est Jésus en tant que un, en tant que le Christ que nous sommes. C'est ça le message. Donc nous sommes innocents. Et donc je téléphonais tout à l'heure à Dave Schock qui me parlait de ça. Il rentre de Bali et il dit on a travaillé sur le pardon et l'innocence. Et j'ai dit oui c'est ça. C'est très important. C'était quelque chose qui est une clé actuellement. C'est pas nouveau bien sûr mais il y a comme si on est tous là-dessus de plus en plus. et on est invité à vraiment accueillir l'innocence, le fait que nous sommes innocents et que tous nos frères et sœurs sont innocents. Le Fils de Dieu est innocent et c'est dans son innocence que se trouve son salut. C'est-à-dire, le salut, c'est la vision que tout va bien. Il n'y a aucun danger, il n'y a rien à craindre. Rien. Tout ça, c'était imaginé. La mort n'existe pas. Nous ne sommes pas le corps physique. Ok, on joue ce jeu, on y va, d'accord. Ok, je joue le jeu d'être soit un homme, soit une femme, etc. Mais je ne suis pas dupe. Parce que je joue dans l'amour inconditionnel. Et c'est le fait de le jouer dans l'amour inconditionnel qui peu à peu me montre une nouvelle harmonie, des miracles, des choses qui changent, des façons de voir différentes. Et donc c'est ma pratique de cet amour inconditionnel qui me montre que ça a un sens. C'est ce que nous dit le cours en miracle. Dans l'introduction du cahier d'exercice où il présente 365 leçons, en disant c'est la pratique, la mise en pratique de ces leçons qui va vous montrer que ça a un sens. Et donc il y a une invitation à pratiquer. Et la pratique elle est simple parce qu'elle se fait, comme je disais tout à l'heure, maintenant, c'est toujours maintenant. Et donc quand je me sens perdu, même par moments ça me fait pleurer, ou les uns et les autres on peut dire mais je me sens pas bien, j'ai l'impression de régresser, d'avoir perdu quelque chose, je cours après l'éveil, après je sais pas quoi, je ne sais rien. Oui, j'accueille ça. Mais je choisis la vérité maintenant, je choisis la non-séparation, même au milieu de ma douleur apparente. Je choisis qui nous sommes, je choisis qui est Dieu. Je choisis la vérité. Et là, il n'y a pas de concession. C'est l'un ou l'autre. La vérité est la vérité, l'illusion est l'illusion. C'est pour ça que Jésus dit, il y a illusion et il y a vérité. Mais ça ne se mélange pas. Effectivement, ça ne se mélange pas, ça n'a pas de sens. L'illusion, c'est une illusion. Et la vérité, c'est la vérité. C'est tout. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire qui nous sommes, l'expression de Dieu, la manifestation de Dieu, donc tout ce que nous pouvons voir, c'est innocent. Ça semble pas l'être. Ok, c'est pas nié, puisqu'on a tout fait pour imaginer la séparation. Ok, on accueille le jeu. Seulement, maintenant nous savons que c'est un jeu que nous avons choisi de jouer en pleine connaissance de cause, avec beaucoup de joie parce que nous savions que le but était inéluctable, c'est un réveil, c'est tout. Il est impossible qu'il en soit autrement à cause de qui nous sommes. Parce qu'on se réveille à quoi? À qui nous sommes. Donc quelque part, personne ne dort. Tout ça, c'est imaginé. Donc quand j'ai une sœur ou un frère qui pleure à côté de moi et qui me dit « je me sens désespéré, etc. », ok, je comprends, je prends sur mon cœur, je dis oui, je t'aime, je sais, je comprends ça. Je comprends ce que tu ressens. Parce que je l'ai vécu moi aussi, ou je le vis moi aussi, ou je l'ai vécu. Donc, je te cajole dans ton rêve, dans ton cauchemar, etc. Mais je ne rentre pas dedans. Et le cours en miracle a là-dessus une image pour expliquer ça en disant c'est comme si vous avez à côté de vous un petit enfant qui dort et qui fait un cauchemar dans son berceau. Vous n'allez pas le réveiller pour lui faire une théorie. Vous le cajolez, vous attendez qu'il se réveille, vous occupez un peu de lui tendrement, avec amour, et vous avez confiance. Vous savez qu'il ne fait qu'un cauchemar. Ça ne change rien à qui il est. C'est exactement ça. Donc tout va bien. Tout va bien. Je me sens guidé à faire quelque chose d'un peu inattendu. Je m'y attendais pas, mais c'est très clair. Je viens de dire que nous partons la semaine prochaine avec Avi et plusieurs autres personnes en Israël. Et vous qui écoutez ces mots, il y a certains que ça va toucher, parce que vous venez avec nous en esprit. L'important, c'est le groupe. L'important maintenant, de plus en plus, c'est ce que nous faisons ensemble. Et nous sommes un, nous sommes un seul esprit. Et l'amour que nous sommes se joue des distances et du temps. Et donc, votre intention simplement de dire, ben oui, je suis avec vous là, j'ai eu le cœur ouvert, et quelque part, je suis avec vous dans ce travail, où certains sont guidés, ont les possibilités matérielles d'aller là-bas, ils ont le temps, etc. Ça fait partie du plan divin d'ailleurs, ils peuvent rien, c'est comme ça. C'est pas plus méritant que les autres qui restent, pas du tout. Mais certains d'entre vous qui entendent cet enregistrement, je suis guidé à vous dire que lundi prochain, dans une semaine, nous partons, et le mardi 24 avril, le mercredi 25 et le jeudi 26 sont trois jours clés. Nous allons être dans la vieille ville de Jérusalem, et Yeshua nous a dit, c'est le cœur de votre travail. Et donc ces quatre nuits et trois jours sont clés. Et si simplement maintenant, vous qui entendez ces mots, vous simplement vous dites oui à ce travail, dans votre cœur d'enfant, votre cœur d'amour, le travail est fait. Vous êtes avec. C'est comme ça. Voilà, c'est au-delà des mots ce que je dis là, mais je suis guidé à dire ça. Et il y a comme un remerciement qui vient.
Alors, je suis guidé à parler à nouveau de l'ego. C'est un de mes sujets favoris, je dois reconnaître. Et je suis guidé à dire que l'ego, c'est notre choix de vivre la séparation, donc notre choix n'est pas condamnable, et l'ego n'est pas condamnable. Si je juge l'ego par rapport à l'amour, ou la peur par rapport à l'amour, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'incarne à nouveau encore un peu plus de séparation. Si je dis il faudrait pas d'ego, il faudrait m'en débarrasser, ben, en fait je renforce la croyance de séparation parce que je l'oppose à la lumière. Donc ce qui me vient de dire, c'est que l'ego est neutre, complètement neutre. Et ce n'est pas la présence de cette pensée d'ego, de cette pensée de séparation qui pose quelque problème que ce soit. Mais c'est le jugement qui est associé à « il faudrait qu'il n'y ait pas d'ego, il faudrait qu'il n'y ait que la lumière ». Dès que j'entre dans ce jugement-là, ben, je donne toute sa réalité à l'ego. Puisque je dis, j'oppose quelque chose à quelque chose d'autre. Donc, je vais dire une chose qui est bizarre, l'ego est parfait dans notre expérience, il joue son rôle parfait. Et je peux l'aimer tel qu'il est. Alors, comment faire alors pour vivre une expérience lumineuse sans juger l'ego? Ça, c'est une question importante, intéressante. Sûrement pas en m'opposant à l'ego. Donc, comment prendre de la distance avec l'ego? Ça peut être aussi une question qui le laisse dans sa neutralité. Parce que dès que je suis pas neutre avec l'ego, ça veut dire que je le juge. Ça veut dire que j'endosse une émotion et que avec cette émotion, je commence à soit me sentir victime de l'ego, soit je suis bourreau de l'ego quand je l'accuse de me séparer de la lumière. Il n'y a pas de porte de sortie, parce que c'est l'ego qui appelle l'ego, qui appelle l'ego. Donc il n'y a pas de porte de sortie. La porte de sortie, pour moi, c'est la distance, la hauteur et la neutralité. Quand j'ai de la hauteur par rapport à une situation, je ne suis pas plongé dedans, puisque je m'élève et j'observe. Quand je suis distant, c'est pareil. Parce que quand je suis distant, qui est distant ? Hein, c'est pas l'ego, puisque l'ego est à distance. Qui est distant ? C'est l'âme, c'est l'esprit pur, c'est celui qui observe, celui qui est dans la paix. Donc cette distance est une forme de salut, déjà. Déjà parce que, sans juger l'ego, je le regarde faire, y compris les manigances. Je ne juge pas les manigances. Hein. Quand moi je vois mon titillement par rapport au mail, je dis pas, faudrait pas être titillé. Il est là, donc je prends acte, je constate. Et qu'est-ce qui se passe dans une situation donnée, dans une situation qui me fait réagir ou qui fait réagir l'ego? Eh bien, à un moment donné, je m'imagine, moi, ça m'aide de m'imaginer dans un vrai théâtre. En fait, c'est un vrai théâtre, mais nous. On l'imagine comme une vie réelle, mais c'est une vraie pièce de théâtre. Avec des accessoires, avec des décors et avec des costumes. Et qu'est-ce qui se passe dans cette pièce de théâtre? J'ai une situation, j'ai un personnage qui vient en face de moi et qui me titille. Et là, pendant un bref instant, j'ai le choix d'aller dans une salle de costumes pour aller prendre le costume du jugement. Et l'ego me dit, va, prends ce costume-là, et puis reviens. Ou alors, prends le costume de la haine. Non, il est mieux celui-là, il est mieux, tiens. Et l'ego insiste, pour me faire endosser quelque chose, comme un costume. Et avec ce costume, je reviens et je joue le rôle de la haine ou du jugement. Et il y a une autre salle de costumes où il y a seulement l'amour et la paix. Mais c'est le même costume. Mais cette fois-ci, il y a personne qui m'exhorte à y aller avec insistance. Donc, il y a un petit moment de choix où j'ai le costume devant moi du jugement et je peux dire non, je le laisse sur le porte-manteau. C'est ça la distance avec l'ego. Je le laisse sur le porte-manteau. Et dans ce petit intervalle de temps où j'aurais pu choisir à droite ou j'aurais pu choisir à gauche, cet intervalle de temps, il est toujours là. Il est toujours là avec la conscience, la présence à cet instant-là, cet intervalle de temps où je dis je vais dans cette salle de costume ou dans cette autre pour prendre un costume, ou même si je suis dans la salle de costume où il y a tous les manteaux des émotions que j'endosse, à ce moment-là, je peux, devant le manteau, dire attends un petit peu, est-ce que vraiment c'est ça que je veux? Et à chaque fois que j'ai ce moment de choix-là, il est infinitésimal. Hein, je peux me dire à l'intérieur, je choisis l'amour. Je vois des gens, je les juge. Non, je choisis l'amour. Je reviens. Je reviens à la maison, je refais un pas en arrière. Je sors de la salle du jugement dernier, de la salle des costumes sombres. Et je le fais pas en jugeant les costumes sombres. Je le fais avec une détermination qui dit « je sais ce que je veux, je choisis l'amour ». Je sors, je vais dans l'autre salle par choix volontaire. Mais je ne le fais pas en m'opposant à l'ego. Et c'est ce qui me sauve. Hein. C'est ce qui me sauve de le faire en me centrant sur l'amour sans m'opposer à quoi que ce soit. Je sais ce que je veux. Il y a autre chose qui m'est proposée, je choisis l'amour. Quand je dis je choisis l'amour, j'exprime la vérité, j'exprime la pureté de qui je suis. Et quand je dis je choisis l'amour, c'est la partie de moi qui connaît la vérité qui est alors appelée à guider. Je peux dire simplement je choisis l'amour, même si je suis noyé dans l'ego, imbibé dans l'ego. Cette phrase est tellement vraie qu'elle peut me faire m'extraire de l'apparente obscurité. Parce que c'est qui je suis. L'appel à m'éveiller, il est là. Il se manifeste par le fait que tu es assise là, Estelle, à côté de moi. Donc c'est toujours là, même au plus profond du sentiment de dépression ou de j'y arrive pas ou de comparaison ou de culpabilité. Je sais ce que je veux, je suis déterminé. Et quand je suis déterminé, je n'oppose rien à rien. Parce qu'en fait, il y a une seule direction possible. Quand je dis je suis déterminé, je reconnais qu'il y a une seule direction possible. C'est l'amour, parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est un choix qui est un non-choix. C'est un choix qui reconnaît la vérité. Donc, en la non-opposition est le salut. Et l'ego joue son rôle, me propose des manteaux, mais l'ego est parfait. J'ai pas à me combattre, j'ai à choisir l'amour de sorte que l'ego n'a plus aucune proposition à me faire en face de ça. De sorte que cette croyance dans les choses séparées, elle se dissout d'elle-même. C'est pas moi qui opère, c'est l'amour qui opère. La lumière éclaire l'ombre, évidemment, hein. Et l'ombre ne peut pas obscurcir la lumière. Dans une chambre avec une pièce blanche et une pièce noire, s'il y a une porte entre les deux, eh ben la pièce sombre est éclairée. Mais ce n'est pas le contraire qui se passe. Donc au nom de l'amour, je laisse l'ego jouer son rôle. Je laisse l'ego jouer son rôle. Mais j'observe. J'observe et puis je reconnais ce qu'il est. Quelqu'un qui me propose des manteaux, des costumes, que je peux très bien laisser sur le porte-manteau. Et c'est ni bien ni mal. L'ego, c'est pas mal, l'ego. L'ego, c'est la croyance que le mal est possible. C'est ça, l'ego. Je crois que je peux faire mal. Mais en vérité, je ne peux pas faire mal, puisqu'il n'y a que l'amour sans opposé dans le monde réel. Donc je ne juge pas la croyance, hein. Simplement j'arrête de l'entretenir. Et c'est neutre. Hein. Cette neutralité, cette observation, cette distance et cette hauteur avec l'ego, arrête de lui donner de cette importance. Et cette importance, c'est ce qui le nourrit, hein. C'est ce qui fait que j'y crois encore plus. Cette opposition que je fais entre l'obscur et la lumière, c'est ce qui fait que l'obscur existe encore plus dans ma croyance. Donc oui, je vois l'ombre. Oui, je vois. Oui, je juge. Oui, c'est ok. Je choisis l'amour. Je choisis ça, c'est d'accord. Je peux à tout moment faire un autre choix. Faire un choix qui reflète ma nature profonde. Et si j'ai pas fait le choix de l'amour auparavant, dans mon expérience de temps, ça n'a aucune importance. Je suis innocent toujours, puisque je suis, ma maison c'est l'amour. c'est pas possible que je vive une autre expérience réelle que l'amour. Donc, avec le jeu de l'ego, je choisis le jugement, par exemple. Tranquillement et joyeusement, je rechoisis l'amour. Et puis, c'est dans l'instant présent, il ne s'est rien passé auparavant. Il ne s'est rien passé qui puisse être condamné. J'ai fait une expérience de sortir de l'océan d'amour. Bon, bah, très bien, je l'ai faite. Elle a eu son sens, maintenant je replonge. Et il n'y a aucune raison, si l'expérience à sec ne me plaît pas, de rester hors de l'océan. Il n'y a aucune raison. Je choisis l'amour, ça veut dire que je replonge. Et dans ma vie terrestre, il y a des tas de possibilités de replonger dans l'amour. En choisissant ses amis, en choisissant des cercles d'événements, des conférences, des situations, des groupes, en m'offrant des cadeaux, en prenant des décisions élevées pour moi-même. Donc ça, c'est une manière de replonger dans le bain. Quand je sens que je suis trop sec là, hein, par rapport à l'amour, j'ai besoin d'une petite couche. Une petite couche de me rappeler, de me réveiller à ça. Voilà, si j'arrête d'entretenir la croyance que l'ego est mal, l'ego redevient neutre et étant de la neutralité, n'a pas d'énergie pour me proposer des rôles difficiles. Pour moi, c'est une porte de sortie douce de notre expérience terrestre qui n'invoque pas des situations de drame. Voilà, je vais officiellement terminer l'enregistrement et clore cette partie de la soirée. Comme l'a dit Sylvain, les deux prochains lundis, il n'y aura pas de groupe ici. Il y en aura un ensemble dans l'énergie de ce qui va se passer en Israël. Assurément, nous œuvrons ensemble là-bas. Hein. Mais formellement, il n'y aura pas d'enregistrement. Donc, il y aura un email et une annonce sur Être Plus pour avertir de la tenue du prochain groupe. Voilà, dans cette joie de nous retrouver tous ensemble, dans cette œuvre commune, je sonne la fin de ce groupe.